Alors, le thème qui a été choisi, d'essayer de comprendre un petit peu cette notion de l'unité d'Israël, si c'est une utopie ou une réalité. En fait, le thème il a été choisi, et on n'a pas fait exprès de faire un thème qui a un rapport avec le don de la Torah, et finalement, c'est quelque chose qui a un rapport. Ça veut dire qu'en relisant le cours, je me suis rendu compte que c'était un lien qui existait, parce que c'est marqué, au moment où les bénis Israël doivent recevoir la Torah, c'est marqué « Vayechen sham Israël neged ha'ar ». Ve'achan, ça veut dire, c'est le langage de Machane, ça veut dire ils ont campé là-bas, les bénis Israël, Negedahar, face à la montagne. Quand, au moment de recevoir la Torah, tous les bénis Israël, ils sont là, 3 millions de personnes qui sont sorties d'Égypte, 600 000 hommes de 20 à 60 ans, ils sont là avec des femmes, des enfants, des vieillards, ils sont là pour recevoir la Torah, ils sont en bas de la montagne. Alors il dit le Rashi, qui est Ishechad Belevechad. Comme un seul homme, Belev Echad dans un seul cœur. Aval Sha'ar, Kola, Achaniot, Betar Umot, Bemachloktot. Les autres fois où ils étaient ensemble, il y a eu des problèmes, il y a eu des querelles, il y a eu des conflits. Mais là, au moment de recevoir la Torah, il y a eu cette unité. Alors, pourquoi? Parce que c'est marqué dans le Pasuk, Vayachen, c'est un langage au singulier. Pourquoi c'est pas marqué Vayachanu? Ils ont campé au pluriel. On aurait dû dire Vayachanu. Sko Vayachan. Comme si c'était un singulier, comme si c'était une seule personne. Alors maintenant, quel rapport il doit y avoir entre le fait que les bénis Israël soient unis et le fait qu'ils reçoivent la Torah? Et comment se définit cette notion d'unité? Parce qu'a priori, on est des individualités. Moi j'ai ma vie, toi tu as ta vie. Et même dans les lois, on définit bien. Ça c'est ta propriété, ça c'est ton argent, ça c'est ta maison, ça c'est ta femme, ça c'est ma femme. On mélange pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que d'un côté on est extrêmement séparé avec des lois très précises, tu me prends un centime, oui, tu me prends 10 euros, tu vas revenir en réincarnation pour expier ces 10 euros que tu as pris. Alors qu'on aurait pu dire, bon, c'est pas grave, ton argent, mon argent, non, l'argent très précis. C'est ta femme, c'est ma femme, tu dis mais je l'aime, c'est mon âme sœur, mais elle est déjà mariée, ça s'appelle un adultère. Hop, automatiquement, c'est très très grave, c'est une des choses sur laquelle un homme il va en enfer et on le ressort pour le remettre. Ça veut dire que c'est une fraude très grave, ouais. Alors donc il y a des individualités. Après, on demande de respecter la personnalité de chacun. Chacun est différent. Chacun n'a rien à voir les uns avec les autres. Oui. Pire encore, on dit que la personnalité, elle se moule sur la neshama et que la neshama, elle est unique. Elle est chaque âme est unique et séparée complètement. Donc a priori, on n'a rien à voir les uns avec les autres. D'un autre côté, on nous dit que quand Hachem veut donner la Torah au Bnei Israël, il leur dit il y a une condition à remplir, c'est quoi? Kol Israël arevim zelazé. Tous les Bnei Israël sont garants les uns des autres. Le mot arev, il veut dire garant. Ça veut dire qu'on est responsable les uns des autres. On peut pas dire moi je fais ma vie, toi tu fais ta vie. Non, on est tous dans le même bateau. S'il y en a un qui fait un trou au fond de la cale, tout le bateau il coule. Je peux pas dire puisque j'ai payé ma place dans le bateau, j'ai le droit de couler le bateau. On est solidaire. Arev, ça veut dire responsable. Mais le mot arev, ça veut dire aussi meurav. Ça veut dire mélanger. C'est-à-dire que je le veuille ou non, on forme un seul ensemble. C'est comme si, par exemple, quelqu'un il est en train de cultiver la terre dans son jardin et il touche un clou qui est rouillé. Alors d'un seul coup, il attrape le tétanos. Oui, une infection du doigt. Alors le doigt, il dit au cœur, j'ai attrapé le tétanos. Alors le cœur, il dit, débrouille-toi. Alors le doigt, il dit à l'autre main, j'ai attrapé le tétanos. La main, elle dit, débrouille-toi. Alors le poumon, il dit, débrouille-toi. Mais papa, mais c'est un seul corps. Si le virus, il rentre là, il infecte le sang, il rentre au cœur, la personne, elle meurt. Alors on dit, Kol Israël am Gouf Echad. Tout Israël est un seul corps. Oui? Un seul corps. Ça veut dire quoi? Qu'on le veuille ou non, c'est ça qui est grave. Qu'on le veuille ou non, on est liés les uns aux autres. Et Akadosh Baruch Hu, il a conditionné, il a dit, je ne donnerai la Torah que si vous êtes d'accord d'être responsable. Responsable, ça veut dire quoi? On a dit encore une fois, c'est qu'on est mélangé. En français, on appelle ça solidaire. C'est solidaire. Il y a, par exemple, cette pièce de métal est solidarisée avec celle-ci. Donc, on les a soudées ensemble. Maintenant, quand je tire une, l'autre, elle suit. C'est solidaire. Bien qu'a priori, quand on les a fait, celle-là, elle était comme ça, elle était comme ça. Maintenant, comment on solidarise du métal? Il faut de la chaleur et de la pression. La chaleur, c'est pour rendre mou, oui. Et la pression, c'est pour créer la fusion. Entre deux personnes, elle ne peut exister la fusion que s'il y a de la chaleur, de la tendresse, oui. Et de la pression, c'est des principes. Si on n'a pas des principes de respect mutuel, il n'y aura pas de fusion. S'il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de fusion. Tu vis ta vie, je vis ma vie, chacun sa vie. Oui. Donc, toutes les règles qui existent dans les systèmes à plusieurs, ils sont toujours basés sur ces principes. Que ce soit le mariage, ou l'amitié, ou les gens qui travaillent dans la même profession, ou les groupes qui sont créés, ou les clubs, n'importe quel principe, il est toujours régi par de la pression, par des règles, qui créent une certaine pression, et par une solidarité, un amour qui fait qu'il y a une fusion. Sinon, il n'y a rien à voir. Toi, tu as ta vie, moi j'ai ma vie, on n'a rien à voir. Cette logique-là, elle veut que Akadosh Baruch Hu n'a accepté de donner la Torah qu'à cette condition. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que le fait qu'on soit unis, ça conditionne la Torah ? J'aurais pu dire, ça n'a rien à voir. Le don de la Torah, c'est quoi ? C'est qu'Hachem, il est obligé de distribuer dans la réalité une information. Il faut que cette information, elle vienne. D'accord ? Donc ça s'appelle le don de la Torah. À part ça, il y a un problème. Est-ce que les Juifs sont unis ? Est-ce que les hommes sont unis les uns avec les autres ? Ça n'a rien à voir, deux problèmes. Non. Pourquoi Hachem, il a conditionné l'un par rapport à l'autre ? Alors maintenant, ça va encore plus loin. Pourquoi ? Parce que quand c'est marqué Israël, il s'appelle Israël. Et bien Israël, il s'appelle Israël. C'est quoi Israël ? Si on prend la première lettre de chaque mot, le Yud, le Shin, le Resh, le Aleph et le Lamed, oui, on prend ça fait Yesh, Shishim, Ribo, Otiyot, la Torah. Yesh, c'est le Yud, il y a. Shishim, 600, c'est-à-dire 60 ribos, 600 000, otiot, lettres, la Torah dans la Torah. Ça fait les lettres, ça fait les premières lettres ça fait le mot Israël. Mais dans quel rapport les 600 000 lettres de la Torah? Alors toujours on dit il y a 600 000 lettres dans la Torah. En vérité c'est faux, il n'y a pas 600 000 lettres, il y a 312 000 lettres. Alors pourquoi dans un Sefer Torah, oui, pourquoi on dit 600 000? Parce qu'en fait il y a des lettres qui sont composées. Par exemple, le Aleph, quand on écrit un Aleph, c'est un Vav avec deux Yud. Un Yud à l'endroit, un Yud à l'envers. Oui. Le même, c'est un Chaf avec un Vav. Donc en fait, le même, il y a deux lettres. Le Yud, il y a trois lettres. Donc qu'est-ce que c'est ça? On dit que quel rapport maintenant entre les lettres qu'il y a dans le Sefer Torah et le nombre des Béné Israël qui étaient au Har Sinaï? Après, on sait que si un Sefer Torah, il manque une lettre, il est plus cachère. Il y a 312 000 lettres. S'il manque une lettre, c'est plus cachère. On sait aussi que s'il y a deux lettres qui se touchent, c'est plus cachère. C'est à part les lettres qui sont composées par Dieu lui-même, oui. Il y a deux lettres dans le Sefer Torah qui se touchent, c'est plus cachère. Pourquoi ? Parce que c'est marqué Urtavtam. Urtavtam, vous l'écrirez. La Gemara, elle dit c'est quoi Urtavtam ? On coupe le mot en mot. Le mot en deux, c'est Ktiva Tama. Une écriture parfaite, complète. Alors c'est quoi le complet ? C'est qu'on dit que si deux lettres se touchent, l'écriture n'est pas complète. Tu dis, mais comment on va ? Pourquoi c'est pas complet ? Voilà, il y a deux lettres ici. Eh ben, je les ai. Donc, quand elles se touchent, elles sont pas complètes. Pourquoi ? Alors, ils disent les commentaires. Voilà, la Gemara, elle dit, parce que le blanc de la lettre, le blanc qui entoure la lettre, il fait partie de la lettre. D'accord ? Ça veut dire que si maintenant, moi, je fais toucher deux lettres, le blanc, il va pas être complet, le blanc qui entoure la lettre. Donc, maintenant, la lettre n'est pas cachère. Parce qu'une lettre, c'est une écriture, on dit en français, noir sur blanc. Alors nous, on regarde toujours le noir, on ne regarde pas le blanc. Mais le blanc, vous voyez, c'est l'entourage de la lettre, il fait partie de la lettre. Maintenant, si on dit que chaque lettre correspond à une personne, alors le blanc, ça correspond à son contexte. Chaque personne, tu ne peux la regarder que dans son contexte. Quand tu la sors de son contexte, c'est faux. Elle est fausse. Vous voyez ? Des fois mieux encore. À l'époque, je vous avais donné cette analyse, mais je ne sais pas dans quelle mesure vous vous rappelez de toutes les milliers de choses que je vous enseigne. C'est que, comment tu regardes la lettre maintenant ? Est-ce que tu regardes la lettre par rapport au noir que tu as écrit ou par rapport à la forme du blanc ? En général, on regarde par rapport au... Alors, je vous avais dit qu'il y avait un professeur des Beaux-Arts, à l'époque, qui m'avait expliqué que quand on dessine, la manière la plus objective de dessiner, c'est de ne pas dessiner l'objet, c'est de dessiner l'entourage. Par exemple, vous me voyez là ou non ? Si vous ne me voyez pas, il faut acheter un chien aveugle. Ouais. Donc vous me voyez. Quand vous me regardez moi, donc qu'est-ce que vous voyez ? Il y a une personne. Maintenant ici, au lieu de me regarder moi, regardez ce qui entoure. Donc vous voyez un petit peu là-bas un peu du rideau là-bas du Echal. Vous voyez un petit peu de la barrière. Après vous voyez un petit peu du carrelage. D'accord. Maintenant vous voyez la forme là, qui est donnée par mon contour. Oui. Alors la différence c'est quoi ? Est-ce que si vous voulez me représenter, soit vous allez représenter moi, soit vous allez représenter l'entourage. Alors dit c'est plus objectif de représenter l'entourage. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui sait un peu dessiner, après qu'il va commencer à dessiner une personne, eh ben il va prendre 3-4 repères. Après il va plus dessiner ce qu'il voit, il va dessiner ce qu'il dessine, puisqu'il sait comment c'est une personne. Donc il y a une espèce d'a priori culturel mécanique au niveau de la main qui a fait qu'à force de dessiner des fleurs, tu sais dessiner des fleurs. À force de dessiner des personnes, tu sais dessiner des personnes. À force de dessiner un pot, tu sais dessiner un pot. Mais tu n'as pas d'a priori culturel sur l'entourage d'un pot. C'est bien ou non? Tu n'as pas d'a priori culturel sur l'entourage d'une fleur. Donc quand tu vas dessiner l'entourage de la fleur, tu seras plus objectif que quand tu vas dessiner la fleur. C'est clair ou non? C'est pareil. Maintenant tu vois quelqu'un arriver. Bon, il est grand, il est petit, il est gros, il est maigre. Bon, il est intellectuel, il est pas intellectuel. Quel métier vous faites, journaliste? Hop, tout de suite, tu l'as mis dans une catégorie. Donc qu'est-ce que tu es en train de faire? Au lieu d'essayer de comprendre la personne, tu essayes de comprendre l'image que toi tu vas t'en faire par rapport à l'a priori que tu as sur sa catégorie. Donc maintenant tu n'es plus en train de comprendre la personne elle-même. Oui? Ah, tu dis, ah, tous les gros ils sont comme ça, tous les religieux ils sont comme ça, tous les maigres ils sont comme ça, tous les nerveux ils sont comme ça. Non! Il y a des faux nerveux, il y a des vrais nerveux. Ouais, il y a des gens qui ont une carapace très forte, mais qui sont très faibles à l'intérieur. Les gens qui ont paraissent très fragiles, mais en vérité, ils sont très forts. Des gens qui ont l'air simples, en vérité, ils sont très compliqués. Comment tu vas savoir? Alors, je te dis, c'est quoi, hein? C'est parce que, est-ce que tu regardes la lettre en elle-même, ou est-ce que tu regardes son contexte? C'est pour ça que toujours, je vous dis que quand tu veux savoir si tu es objectif dans une discussion, la seule manière de savoir, si quand tu es en discussion avec quelqu'un, si tu es objectif, c'est est-ce que tu es capable d'argumenter dans le sens de l'autre. C'est un exercice très puissant. D'argumenter dans son sens, ça n'a pas de problème. D'argumenter dans le sens de l'autre, c'est dur. Pourquoi? Pourquoi c'est dur? Parce qu'on n'est pas d'accord. Non, parce qu'on ne sait même pas ce qu'il raconte l'autre. Les trois quarts des gens qui se querellent ne savent même pas ce que l'autre dit. C'est pour ça que j'ai dit une phrase débile, c'est que ne peuvent être d'accord que les gens qui peuvent être d'accord. Mais les gens qui de toute façon ne peuvent pas être d'accord, puisqu'ils ne savent pas ce que dit l'autre, donc ils ne peuvent pas être pas d'accord. Donc ça veut rien dire, je suis pas d'accord, parce que je sais même pas ce que tu dis. Ça, c'est les trois quarts des discussions. Hein. La base. Chez les gens qui discutent. Après, il y a les gens qui font semblant de réfléchir, de discuter. Mais c'est quoi l'idée? C'est que maintenant, vous voyez, maintenant, ici, il y a la personne. Ici, il y a une personne. Entre les deux, il y a du vide. En vérité, c'est faux. Celle-là, elle a un contexte, celle-là, un contexte. Alors, quand on essaie de se comprendre, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de combiner les contextes. On dit en français, je me mets à ta place. Tu te mets à ma place. Ma place, c'est mon contexte. Ta place, c'est ton contexte. Donc, toi, tu ne peux pas me comprendre tant que tu n'es pas à ma place. Maintenant, la combinaison des contextes, c'est le blanc des lettres. Donc, je respecte ton espace. Je respecte ta différence. Alors, peut-être on pourra fonctionner les deux. Mais si moi, j'empiète sur toi, parce que moi, je colle les deux lettres, donc toi, tu n'as pas besoin d'exister, c'est moi qui te fais exister. Et moi, je vais exister pour toi, et moi, je vais réfléchir pour toi. Comme tu dis, tu sais, je ne te comprends pas, parce que moi, à ta place, j'aurais fait ça. Mais tu dis, moi, à ma place, donc vous allez dire que t'es moi, maintenant. Moi, à ta place. Vous comprenez cette logique-là? Et ça, c'est quoi? C'est que chaque lettre, elle a sa place. Chaque lettre. Il manque une lettre dans Sefer Torah, elle n'est pas cachère. Hachem n'allait pas donner la Torah s'il manquait une lettre. Et s'il manquait un des 600 000, il n'aurait pas donné. C'est marqué dans le Midrash. Maintenant, c'est marqué aussi que quand Hachem il est venu pour donner la Torah, il a amené avec lui 600 000 malachim, 600 000 anges. C'est quoi ces 600 000 anges? En vérité, chaque personne, elle a une correspondance physique et une correspondance spirituelle. Par exemple, la Gemara dit, des fois un homme il a peur, il ne sait pas pourquoi. Alors on dit pourquoi? Parce que son ange qui est au-dessus de lui, il a perçu un danger, mais lui n'a pas perçu le danger. Mazal, son mazal à lui, il a senti. Ouais, lui il n'a pas senti. Je sais pas pourquoi il a peur. Aller voir des psychologues, des psychiatres, prendre des médicaments. Ça sert à rien. Faut juste accepter que t'es double et que de temps en temps, il y a des choses que tu perçois pas. C'est pas grave. Comme dans la vie, tu comprends pas tout. Je comprends pas tout. Comme nous, on est éduqués dans une société à penser que celui qui comprend pas tout, il est débile. Alors, ça fait un maximum de débiles qui sont obligés de prendre des médicaments pour souffrir du fait qu'ils n'arrivent pas à comprendre tout. Mais quand tu acceptes que tu comprends pas tout, c'est pas grave. Ouais, une femme, elle est venue chez moi, elle m'a dit, je comprends pas mon mari. Mais votre père, vous l'avez compris? Elle m'a dit, non, je dis pas. C'est pas grave. On va comprendre ce qui est donné à être compris, ce qui est nécessaire d'être compris, on va le faire. Ce qu'on ne comprend pas, on arrive à vivre avec. Comme tu roules en voiture tous les jours, pourtant tu sais pas réparer un moteur. Et tu roules avec, tu dis pas, ah puisque je ne comprends pas le moteur, j'arrête de l'utiliser. Non. Tu sais pas comment est-ce que les poumons, ils absorbent l'oxygène en passant par le sang. Ouais. Et pourtant, tu continues à respirer. Tu dis pas, j'arrête de respirer parce que je sais pas comment ça marche. Bah, toute la vie, c'est comme ça. C'est comme les enfants. Tu les comprends pas aujourd'hui, tu les comprendras demain. Blinéder. Ça prend du temps. Ouais. Et mais cette logique, c'est quoi? C'est que maintenant, Hachem, il a créé la différence. Ouais. Et d'un autre côté, il a obligé à être ensemble. Parce que c'est une mitzvah. C'est une mitzvah d'être ensemble. C'est une mitzvah de fonctionner avec l'autre. C'est une mitzvah de faire un avec l'autre. Comment je vais faire? Puisqu'on est tellement différents. Donc la question est de savoir, est-ce que notre différence, elle nous sépare ou est-ce que notre différence, elle nous rapproche? Elle sépare ou elle rapproche? C'est très simple. Ça dépend. Si tu utilises la différence, elle te rapproche. Si tu subis la différence, elle te sépare. Subis. Subito. Elle te sépare. Subiche. Si tu subis, c'est-à-dire si elle te pèse la différence, si elle t'agresse, alors ça sépare. Si elle t'intéresse, ça te rapproche. C'est un état d'esprit. C'est un peu psychiatrique. Si tu te sens agressé par l'existence de l'autre, donc la différence, elle te fait peur. D'accord? Mais si tu ne te sens pas agressé par la différence de l'autre, donc la différence de l'autre, elle t'intéresse. Donc en fait, c'est le malaise psychiatrique qui anticipe à la rencontre. Dans quel état t'étais au moment où t'es venu? Si c'est comme ça, ça veut dire que Hachem, il a besoin de ça pour donner la Torah. Mais quel rapport on a dit? Là, c'est une logique incroyable. Il dit, on a dit que chaque Ben Israël, il est venu avec un ange. Et chaque personne correspond à une lettre de la Torah. Et comment c'est la correspondance? Maintenant, Hachem, il veut dévoiler la Torah. D'accord? Maintenant, nous, on fait une grave erreur, malheureusement, qui est diffusée par la rue, qui s'appelle la culture. On a déjà parlé plusieurs fois de ça. Les gens parlent de la culture, c'est la connaissance, la transmission de la connaissance, la perception de la connaissance, les règles de distribution de la connaissance. Mais maintenant, je vais vous expliquer quelque chose de très très compliqué. J'espère que vous allez comprendre, je sais que ce n'est pas évident en jouant avec son téléphone, mais je vais vous donner quelque chose de très très riche, très important. En vérité, quand une personne parle de la connaissance, ça n'a rien à voir avec la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah n'est pas une connaissance. La Torah, elle est vivante. Ouais, c'est un phénomène vivant. Par exemple, la Gemara, elle dit « Divrei Torah enam mikablim tuma ». Les paroles de la Torah ne reçoivent pas l'impureté. Tu dis, mais quel rapport? Un bout de bois, il reçoit l'impureté. Ouais. Quelqu'un qui est impur, il touche le bout de bois, il devient impur. D'accord? Mais les paroles de la Torah, elles ne peuvent pas devenir impures. Ce n'est pas un objet. Oui? Maintenant, quelqu'un, il peut rendre les paroles de la Torah un objet. Alors, ils vont devenir impurs chez lui. Mais sinon, non. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de vivant. Ouais. Pourquoi? Hachem, maintenant, il est venu, il a dit, je vais dévoiler la Torah. La Torah, c'est quoi, en vérité? C'est la connaissance d'Hachem. Comme ça, on le traduit, nous. Maintenant, elle ne peut se dévoiler que par la personne, que par chaque personne. Maintenant, on dit, kol Israël yesh lo chelek b'Torah. Chaque Israël, il a une part dans la Torah. Au moment du don de la Torah, si les 600 000 âmes ne sont pas là, on ne peut pas donner les 600 000 lettres. Or, chaque lettre, c'est quoi? C'est pas un enseignement. Chaque lettre, c'est un tuyau d'enseignement. Pourquoi? Parce que vous savez que chaque personne, elle a une neshama. La neshama, c'est une partie d'Hachem. Maintenant, l'homme, il est profondément physique et il est extrêmement spirituel. Pourquoi? Parce que comment il s'appelle l'homme? Adam. Adam, ça veut dire l'homme. C'est Adam, ça vient de Adama, c'est la terre. Mais l'homme s'appelle aussi Ish. Ish, c'est quoi Ish? Ish, c'est Esh, le feu, avec un Yud. Maintenant, Dieu, il a créé le monde avec deux lettres, le Yud et le He. La première lettre, le Yud, ça représente la Chorma. Maintenant, l'homme, c'est du feu. Le feu, c'est quoi? C'est l'énergie. D'accord? Quand vous mettez la sagesse à l'intérieur, elle devient un homme. Maintenant, ça, c'est le niveau élevé de l'homme. Parce que on dit ça correspond, Ish c'est Esh à Siri, ça veut dire c'est un ange de dixième niveau. C'est-à-dire que l'homme, il correspond à un ange de dixième niveau, c'est ça Ish. D'un autre côté, c'est Adama. Adama, c'est la matérialité, c'est la grossièreté. Et c'est vrai, parce qu'un homme, il peut avoir des ambitions intellectuelles extraordinaires, et d'un autre côté, il peut rêver toute la nuit d'être enfermé avec une prostituée. Alors, à qui on parle? On parle à un chien, à un cheval, ou on parle à un ange? C'est compliqué l'homme, oui. T'as les nazis et t'as Rabbi Shimon Bar Yochai. T'as des poètes d'une finesse extraordinaire et t'as des malades mentaux qui enferment des gens pour les couper en morceaux. Alors on sait plus. C'est quoi? C'est une race de chiens? C'est une race de tzadikim? De quoi on parle? Et cette logique là, ça vient de ça. Ça vient que l'homme en vérité, il a un corps et en même temps il a une neshama. La neshama elle le relie au ciel et le corps il le relie à la terre. Et l'homme il est déchiré. Il est pris entre les deux. Il a des pulsions animales d'un niveau qui est extrêmement nul Et d'un autre côté, il a des aspirations intellectuelles et ensuite spirituelles extrêmement hautes. Alors comment on va trouver la conjugaison des deux? Comment on va faire la communion? Alors la logique c'est quoi? C'est que Hakadosh Baruch Hu, c'est que quand on fait la bénédiction pour l'étude de la Torah, on dit Noten à Torah. Noten à Torah. C'est quoi? Il donne la Torah. On parle au présent. On ne dit pas Nathan à Torah, qui a donné la Torah. On dit qu'il donne. C'est-à-dire qu'en vérité, Hakadosh Baruch Hu, il donne la Torah. Il la donne en temps réel. C'est-à-dire qu'il l'a donnée il y a 3500 ans, il l'a donnée il y a 1000 ans, il l'a donnée il y a 500 ans, il l'a donnée il y a 10 minutes, et j'espère, si Dieu veut, qu'il nous la donne maintenant. Ça veut dire quoi? C'est que chaque personne, en vérité, quand elle est ici, vous la voyez comme ça physiquement, debout. Ouais. Mais en vérité, son corps physique, il s'arrête là. Mais à partir de là, son corps spirituel qui remplit son corps, il continue, il traverse, on l'a expliqué déjà plusieurs fois, les 7 cieux. Ensuite, il traverse les 10 dimensions spirituelles de la Kabbalah. Et ensuite, il arrive à la racine des âmes d'Israël, qui est en dessous du trône céleste. Là-haut, il reçoit la Torah, et en bas, il exprime la Torah. En haut et en bas. Il n'y a pas de différence. Donc maintenant, si on dit qu'il y a 600 000 béné Israël qui reçoivent la Torah, qu'il y a 600 000 lettres dans la Torah, et que Dieu, il a besoin que le jour du don de la Torah, ils soient tous unis. Pourquoi? Parce que c'est les 600 000 canaux par lesquels la Torah va être transmise. S'il manque un canal, la Torah n'est pas complète. Donc elle est fausse. Cette Torah d'Hachem, Temima. La Torah d'Hachem, elle est complète. Ça veut dire que l'union, l'harmonie dont on parle en Israël, c'est pas simplement de la gentillesse et un club de sympathie et on s'adore tous. Non, 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 c'est plus compliqué. Il y a une finalité qui est beaucoup plus élevée que simplement de faire un club de gens qui s'aiment bien. Je sais pas si vous me suivez. Ça va? C'est pas la peine de donner une Torah tellement compliquée si c'est juste pour faire un club de scouts. Genre, on fait des BA, on s'aime bien, on fait des choses ensemble, on rigole. Non, 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 c'est pas ça. Tout l'intérêt de la Torah, c'est le lien qu'elle peut créer avec Dieu, c'est tout. Pour faire un club de gens humains qui s'arrangent entre eux, tu prends n'importe quel deb de la rue, il va écrire un code, on va s'arranger entre nous. Respectez-vous les uns les autres, développez la tolérance, apprenez à vous investir l'un dans l'autre, créez des liens. Ça y est, c'est bon, c'est pas la peine de déranger le bon Dieu. Non, il y a des gens qui ont voulu rabaisser la Torah à ce niveau-là. On appelle ça les humanistes. Mais c'est dommage. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'essence de la Torah, ils ont enlevé tout ce qui avait un rapport avec Dieu, ils ont gardé le reste. Mais c'est l'écorce. Tout l'intérêt de la Torah, c'est le lien qu'elle crée avec Dieu, c'est tout. C'est quoi l'aventure humaine? C'est l'aventure humaine, la comédie humaine, tout l'intérêt. C'est le fait que l'homme, par rapport à l'animal, il peut avoir un lien privilégié avec Dieu, sinon quel intérêt? Ah, parce que tu peux avoir 40 bonnes femmes et 1 million d'euros. Mais tu sais quand tu vas mourir? Les vers, ils mangent avec le même appétit. Un milliardaire et un pauvre. Que tu aies mis 50 tonnes de maquillage ou que tu ne t'es jamais maquillé, c'est la même chose. Ah, tu devrais avoir de la peine pour les vers, qui, les pauvres, ils vont souffrir avec tout ce que tu as mis comme maquillage. Non, c'est interdit de faire souffrir les animaux. Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'une personne arrive à comprendre que la vanité humaine, c'est l'homme, lui-même. Maintenant, si l'homme, il arrive à élever ça parce qu'il a un projet, alors ce projet-là, il lui donne un sens. Comme quelqu'un qui se bagarre avec sa femme. Toi, moi. Et j'aurais dit, quand même, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. On ne pourrait pas profiter un peu, là? Au lieu de souffrir comme des gamins. C'est le recul qu'ils ont pris. Ils donnent un sens. Ouais. C'est pareil les enfants, je suis pas content, je suis déçu, il m'énerve, mon fils, c'est pas ce que j'attendais, ma fille. Écoute Baba, un jour ils vont partir, un jour tu vas partir. Donc après c'était quoi l'intérêt? Qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu veux amener un cahier pour expliquer que t'avais un fils nul? Ou des parents méchants? C'était ça ton but? Qu'est-ce que tu veux, nourrir les psychiatres? Non. Toi tu dis un jour ils seront plus là, ou un jour je serai plus là. Alors je veux que cette relation, elle ait un sens. Donc à chaque fois que tu élèves quelque chose, ça lui donne un sens. Maintenant, c'est quoi le sens de l'homme? C'est la relation qu'il entretient avec le divin. Et je vais dire pire, même si quelqu'un n'est pas religieux. La preuve, ils ont fabriqué des substituts. Vous savez, ils ont fait des substituts de crevettes, des substituts de cochons. Ils ont même fait des substituts de beauté. Mais toujours ils relient à la divinité. Tu vois, ils te disent, une beauté divine. Quand ils ont une belle soirée, ils disent une soirée d'enfer. Tu sens que ça va chauffer. Oui. Mais quel intérêt? Pourquoi tu veux donner une dimension divine à quelque chose qui est profondément humain? Parce que c'est la seule manière de l'élever. Et cette logique-là? Il dit, ben, cette dimension-là, c'est qu'on est tous comme ça. Maintenant, on n'a rien à voir. Toi, tu as ta vie, moi, j'ai ma vie. Voilà, ce soir, je vous parle. Demain, je vais parler à quelqu'un d'autre. Ouais. Je ne vais pas vous oublier, mais j'ai ma vie. Comme vous aussi, vous avez votre vie. Bon, il est sympathique, le rabbin, mais à part ça, chacun, il a sa vie. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qui nous relie? Le bon Dieu, il a calculé qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit là ensemble. Demain, on va être ailleurs. Après, peut-être dans 4 ans, on va se rencontrer dans un aéroport. Peut-être on va des cousines qui vont se marier entre eux. Tiens, en fait, maintenant, on est en famille. C'est quoi cette idée que maintenant, on se voit de temps en temps, et puis après, on se voit plus intensément, puis après, on est en famille? Comment ça fonctionne? En vérité, c'est quoi? C'est le lien transparent qui existe entre nous. Alors, ce lien transparent, est-ce qu'il doit être la motivation profonde de notre relation? Vous voyez cette logique-là? C'est toujours, je vous dis, il y a un monsieur, un papa, il y a un monsieur, une madame, des enfants. En français, on appelle ça une famille. Ça va? Mais il y a beaucoup de familles où il n'y a pas de famille. C'est vrai? Pourtant, il y a le père, la mère et les 3 enfants. Et il n'y a pas de famille. Il y a les oncles, les tantes et les cousins. Mais il n'y a pas de famille. Ça n'a rien à voir. C'est pareil. Tu rentres dans une entreprise, tu dis, il y a le patron, il y a les employés, il y a le contremaître, il y a tous les... Tu crois que c'est un groupe? C'est pas un groupe. Parce que chacun, il cherche son intérêt. Donc en vérité, il n'y a pas de groupe. Vous voyez cette logique-là? Donc en vérité, qu'est-ce qui relie les éléments? C'est le côté transparent. Le côté invisible. On appelle ça le ne'elam en hébreu. Ne'elam, c'est ce qui est invisible, c'est ce qui ne se voit pas. On l'a expliqué déjà, c'est la même racine que le mot olam, qui veut dire le monde. Et le mot le'olam, qui veut dire pour toujours. Alors le mot olam, ça veut dire l'espace. Ouais, le monde, c'est l'espace. Le mot le'olam, ça veut dire toujours, ça veut dire le temps. Et le mot ne'elam, c'est ce qui est transparent. Maintenant, je vous donne un secret. Ce qui relie les gens, c'est le ne'elam, c'est ce qui est caché. Et c'est ça ce qui forme leur olam. C'est leur monde. C'est quand on dit olam haTorah. Des fois, tu vois les commentaires, ils disent kach omrim be'olam haTorah. Comme ça, on dit dans le monde de la Torah. Mais c'est quoi le monde de la Torah? Il y avait un rabbin qui était en Turquie, l'autre, le rabbin, il était en Yougoslavie, l'autre, il était en Tchécoslovaquie. Que s'appelle le monde de la Torah? Oui, il y a un lien transparent qui est créé entre eux. Ouais. Maintenant, je vous dis le secret. Si tu réussis à créer un monde, par exemple une famille, ça s'appelle un olam, monsieur, madame et les 3 enfants. Si tu as créé un olam, attention, en te basant sur le ne'elam, c'est-à-dire la dimension invisible, ce lien-là, il reste clair olam, il reste pour toujours. Ça va? Mais si le lien qui existe, il n'est basé que sur le olam, c'est-à-dire tu me rapportes de l'argent, pour l'instant tu m'entretiens, émotionnellement tu me rapportes, sexuellement tu m'épanouis, alors un jour ça se termine, parce qu'il n'y a pas de ne'elam, il n'y a rien de transparent, il n'y a rien d'invisible. Donc il n'y a rien qui est intemporel. Maintenant la question est de savoir, est-ce que le lien qu'on entretient avec Dieu, il est visible ou invisible? Ça va? Non, c'est important. C'est du folklore ou de la religion? Par exemple, tous les jours, on fait le Kriyat Shema. Ouais. Le Kriyat Shema, le but, c'est quoi? C'est de recevoir le joug divin. Tu crois que chaque personne qui fait le Shema, il reçoit le joug divin 2 fois par jour? Est-ce que c'est le joug divin? Est-ce que c'est le joug divin? Par exemple, je vais prendre un exemple qui est plus facile à comprendre. Le mariage. D'accord? Moi, j'ai des problèmes parce que je reçois des gens qui viennent pour le problème du Shalom Bayit. Alors, au bout d'une heure et demie, je suis obligé de constater avec eux que le vrai problème, c'est qu'ils ne sont pas mariés. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire, ils ont fait la synagogue, ils ont fait les fiançailles, ils ont fait le traiteur, ils ont fait les photos, après ils ont fait les enfants. Ils ne sont toujours pas mariés. Ils ne sont pas mariés. Je dis, bon, écoutez, voici la ketouva. Mais non, tout ça, c'est du folklore. Le mariage, c'est qu'un jour, tu as pris un joug sur tes épaules qui s'appelle ta femme. Et tu as pris un joug qui s'appelle ton mari. Maintenant, si tu ne veux pas le prendre, tu n'es pas marié. C'est ça, marié. Marié, c'est que tu as le souci que ta femme elle soit heureuse. Marié, c'est que tu as le souci que ton mari soit heureux. C'est ça, marié. Sinon, tu n'es pas marié. Ah, tu mets, je paye mes factures, je joue mon rôle d'homme, j'amène de l'argent à la maison. Qu'est-ce que tu entretiens la bonne, la repasseuse, la coucheuse? Tu payes pour avoir une image. Quand tu sors, tu dis, bien tiens, je vous présente celle qui remplit les fonctions de femme. Combien elle vous coûte? Bah, une carte bleue, des vacances et une voiture personnelle. C'est pas le mariage, ça. C'est un contrat qui permet de donner une image commune. Mais quel rapport tu as avec ça? Tu pries pour elle? Tu pries pour lui? Bah, attendez, il se débrouille, hein. Et cette logique-là? C'est pareil quand t'es parent, C'est-à-dire, t'as pris un joug sur les épaules, ça s'appelle les enfants. C'est un joug, t'es comme un bœuf avec un poids, là. Jusqu'au mariage, t'es pas encore soulagé, hein. Il y en a même après le mariage, hein. Il y a des enfants, après le mariage, tu les portes encore. Donc, si tu n'as jamais senti ce joug, parce que t'as trouvé un truc intelligent de le mettre sur ta femme ou de le mettre sur ton mari, tu te sens léger. Alors si déjà le joug des enfants et le joug du mariage qui est quelque chose de concret, tu n'as pas réussi à le prendre, alors tu crois que le joug de Dieu, tu as réussi à le prendre. Alors depuis combien d'années tu fais le schéma pour rien? Donc c'est du folklore. Après tu dis c'est marrant, je ne ressens rien. Ben c'est normal, baba. Depuis quand quelqu'un qui prend dans le vide avec une cuillère, ouais, après qu'il a pris 3 bols d'air, il fait bourriner fachotte. On ne fait pas bourriner fachotte sur l'air. Ça va? Parce que ça n'a rien pris. Mais il faut avoir le courage de dire, il n'y a rien dans le bol. Il n'y a rien dans notre mariage. Il n'y a rien dans ma religion. Il faut avoir le courage de le dire. Et ben c'est ça la question. La question, c'est qu'il y a le Sefer Torah, il y a les Bnei Israël, et il y a Hachem. Et Hachem, maintenant, il vient pour donner la Torah. Donc il a besoin que chaque Ben Israël, il soit là. Oui, mais on a dit que ça, c'est pas qu'il l'a fait à l'époque, c'est qu'il continue à le faire. C'est pour ça que c'est marqué dans le Zohar, Kutcha v'richu v'oraita v'Israël chadou. Hachem, la Torah et les Israël font un. Il y a deux manières de comprendre. Soit c'est que tous ensemble ils font un, d'accord, on va expliquer pourquoi. Soit que chacun est unique, parce que la Torah elle est unique. Dieu, il est unique. Et chaque personne, elle est unique. Maintenant, comment 3 choses qui sont uniques, donc par définition qui excluent l'autre, elles peuvent faire un? Par exemple, vous croyez en Dieu ou non? Oui, non, oui. Vous avez des doutes maintenant, c'est pas évident. Quand quelqu'un y croit en Dieu, ça veut dire quoi? Vous savez, on dit, il faut comprendre ce qu'on appelle Metsiut Hashem. C'est quoi Metsiut Hashem? La réalité de Dieu, c'est quoi? Écoutez, il y a des notions intellectuellement accessibles qui s'appelle une certaine perception de l'existence de Dieu. J'ai la foi, j'ai appris à l'école, j'ai fait teshuva, le rabbin m'a expliqué, donc maintenant je crois. Super, je suis content pour toi. D'accord. Mais nous, dans la Emouna, on ne doit pas croire que Dieu existe. Ouais. On doit croire que le monde, c'est Dieu. Je ne sais pas si vous me suivez. Parce que nous, on dit, y a la vie, il y a le manger, il y a le sommeil, il y a la télé, il y a l'ambiance et il y a Dieu. Donc, Dieu devient une notion culturelle dans notre contexte. Non. Ça, c'est Dieu, ça. Ça, c'est Dieu. Toi, t'es Dieu, toi. Puis, moi, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Oh, loin de là. Oui, bien sûr, j'ai compris. Mais je vous avais expliqué à l'époque que la masse d'énergie qui fait exister le monde, c'est la projection de la volonté d'Hachem. Et qu'Hachem et sa volonté, ils font un. Donc maintenant, pour que les molécules gardent leur forme initiale, ou qu'elles évoluent pour créer la réalité, elles sont véhiculées par une masse énorme d'énergie. Cette énergie, ce n'est que la projection de la volonté d'Hachem. Donc si maintenant Hachem, il arrête sa volonté, oui, le monde disparaît. Comme si toi, tu éteins le projecteur, et que l'image sur l'écran, elle disparaît. Après tu dis, mais qui a enlevé cette belle image qui était sur le mur? Elle n'était pas sur le mur, elle était sur le diapo. Mais elle était véhiculée par une lumière qui la mettait sur le mur. Maintenant, nous, en tant que croyants, on doit avoir la émouna que si Hachem, pendant 1 seconde, il enlève sa volonté que le monde existe, eh bien le monde va se séparer en particules élémentaires. Si quelqu'un ne croit pas à ça, il ne croit pas en vérité. C'est la deuxième base de la émouna. Parce que la première, c'est l'Ashgaha, ouais, l'intervention de Dieu. La deuxième, c'est Metsiut Hachem. C'est ça la réalité de Dieu. C'est une réalité. C'est-à-dire que la... Dieu, il est là devant toi, là. Il est là, il est dans tes mains. Non, je sais pas si... Ouais. C'est pas qu'il y a tes mains et il y a le bon Dieu. C'est pas qu'il y a ton cerveau, il y a le bon Dieu. C'est pas qu'il y a ta conscience et il y a le bon Dieu. Non. Non. C'est que les deux, ils sont imbriqués l'un dans l'autre. Maintenant, qui est-ce qui va révéler, ouais, à toi que Dieu existe? Par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, t'es marié. Mais c'est quoi ta femme? Ta femme, c'est un niveau de conscience que tu as par rapport à une certaine personne. C'est quoi ton mari? C'est un niveau de conscience que tu as par rapport à une certaine personne. Maintenant, nous sommes tous 600 000 canaux qui révèlent l'existence de Dieu dans le monde. C'est-à-dire que normalement, quand un homme, il voit un juif, il doit dire Dieu existe. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est ça notre travail à nous. C'est pour ça que les gens, ils comprennent pas que pourquoi quand un juif, il fait une bêtise, le monde entier s'énerve. C'est bizarre, non? Ouais. Si on va tuer un Palestinien, toutes les chaînes de télé en parlent. Mais si on tue un million de musulmans au Darfour, on tue un million de personnes, on n'en parle pas. Alors nous, on s'énerve, on dit, ouais, comment ça se fait que... Mais baba, ça, t'as pas le droit. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Les autres, ils ont le droit. Nous, on n'a pas le droit. C'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une logique que nous, on a un rôle énorme à assumer. Si on l'accepte, ouais, on devient le peuple élu. Si on le refuse, on devient le peuple élu. On va nous en vouloir parce qu'on est le peuple élu. Ouais. Et si on l'accepte, on devient le peuple élu. Donc, tout le monde va apprendre de ce que nous, on a à transmettre. Akadosh Baruch Hu, il a créé ça. Il a donné cette occasion. Ça s'appelle le don de la Torah. Mais ça, il fallait que chacun il l'accepte en tant que personne propre. Ouais. Et d'un autre côté, qu'il soit relié à l'autre. Parce que c'est le Sefer Torah. C'est pour ça que c'est marqué. C'est marqué dans le Midrash Rabbah, le Be'er Moshe ramène là-bas dans le Midrash Rabbah dans Bereshit, que quand Yaakov Avinu, il s'est approché du puits où il devait rencontrer ensuite Rachel pour se marier, c'est marqué Vayar ve'ine Be'er. Il a vu et voici qu'il y avait une source. Il dit le Midrash, c'est quoi cette source? C'est Arsinaï, le mont Sinaï. Ve'ne'esfu shama kol ha'adarim. Et là-bas, il se ramassait tous les troupeaux. Il dit le Midrash, c'est quoi? Shilu ayu Israël chaserim echad lo ayu mekablim et Torah. S'il avait manqué un seul juif au moment du don de la Torah, les Bnei Israël n'ont pas reçu la Torah, n'auraient pas reçu la Torah. Il dit Veine, milvad shaya tzarich liot shishim ribo bematan Torah. C'est pas seulement qu'il fallait qu'il y ait 600 000 personnes, 600 000 adultes au moment de la Torah. Il dit pourquoi? Mishum shemispar ze mechuvan keneged shishim ribo tiot batorah. Parce que ça correspond aux 600 000 lettres de la Torah. Il fallait qu'en plus, ils soient be'ardout, ils soient en unité, ou be'dvekout, et qu'ils soient reliés les uns aux autres, ils soient collés l'un à l'autre. Ça veut dire quoi cette logique? C'est que nous, encore une fois, on est à l'époque de Yaakov, d'accord? Donc Yaakov avec nous, il veut se marier. Il arrive dans un endroit, il y a un puits. On voit un puits, d'accord? Et on dit, ce puits-là, c'est l'endroit où se réunissent tous les troupeaux pour venir boire. Maintenant, cet événement, il a été vécu par Yaakov, bien avant. La Torah, elle dit tout ça, c'est des bêtises. Ça n'existe pas, l'ambiance, le décor, ça n'existe pas. Tout ce qui a été vécu par les Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ça va être vécu par leurs descendants. C'est-à-dire qu'en vérité, quand on dit que l'histoire, elle se répète, ouais, c'est comme si elle est donnée à un certain moment extrêmement concentré et ensuite elle est étalée. C'est comme quand tu regardes un microfilm, par exemple, il n'y a rien. C'est quoi un microfilm? Mais si tu mets dans un projecteur qui est adapté, tu vois une image énorme. Oui? Ben c'est pareil. Toi, tu crois que Yaakov avait nous la Torah, elle te raconte qu'il est arrivé à côté d'un puits, mais qu'est-ce qu'on en a à faire qu'il est venu à côté d'un puits? Et qu'il soit venu à côté d'un palmier ou à côté d'un chameau? Qu'est-ce que ça nous intéresse, nous? Attends, non. Ce puits-là, c'est le mont Sinaï. Ça, c'est comme pour te dire que Dieu, dans l'espace-temps, il a créé un trou par lequel il va faire passer sa présence et sa volonté. Ça s'appelle le mont Sinaï. Là-bas, elle dit la Torah, tous les troupeaux se ramassaient. Kol ha'adarim, tous les troupeaux, ouais. Venez espou shama kol ha'adarim. S'il manque un troupeau ou un du troupeau, il peut pas recevoir la Torah. Il a dit, s'il manque une lettre de la Torah, on peut pas recevoir la Torah. Ça veut dire que la Torah, elle n'est complète que quand tous les Bnei Israël sont ensemble. On a dit que la Torah, c'est quoi? C'est le lien avec Hachem. Donc le lien avec Dieu ne sera complet que si nous-mêmes nous sommes unis entre nous. sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire que le fait qu'on n'arrive pas à percevoir Dieu, c'est 50% à cause du manque de croyance et 50% à cause du manque d'unité. Si vous allez me dire, mais quel rapport? Ça, c'est un problème humain et ça, c'est un problème divin. Je vous dis un grand chidouche. Bon, je vous l'ai déjà dit déjà, mais je vous le redis parce que c'est des choses qu'il faut bien, bien, bien comprendre. Les enfants ne ressemblent pas à ce qu'on croit être ou à ce qu'on montre être, ce qu'on paraît. Les enfants ressemblent à ce qu'on est. D'accord? Tu mets ce qu'on est, ça ne se voit pas forcément. Alors je te dis, les enfants, les psychologues disent qu'ils reproduisent des modèles. Mais la Torah va plus loin. L'enfant, il ne reproduit pas ce que tu montres seulement, il reproduit ce que tu es. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est que si toi, au fond, tu es une menteuse, ouais, mais ça ne se voit pas à l'extérieur. Tes enfants sont des menteurs. Mais pourquoi? C'est une énergie. Tu développes une énergie de mensonge autour de toi. Si toi, au fond, tu aimes la Torah, tes enfants, ils vont aimer la Torah. Tu dis, mais attends, je suis religieux, j'étudie tous les jours. Mais tu aimes la Torah ou non? Non, ça me saoule, ça me gave, mais je suis obligé parce que j'ai peur de Goïnam. Mais tu n'aimes pas la Torah, je n'aime pas. Tes enfants, ils n'aiment pas. Je ne sais pas si vous me suivez. Tu es content de rentrer chez toi quand tu rentres le soir ou non? En vérité, ça me saoule. Après, tu essaies de parler avec ton fils? J'ai pas envie de te parler. Ben pourquoi? Ben parce que lui, il t'aime pas, toi tu l'aimes pas. Si, mais ça se voit pas, c'est transparent. T'as pas confiance en lui, il a pas confiance en toi. Tu dis, mais moi j'ai des bonnes raisons de ne pas avoir confiance. D'accord, mais t'as pas confiance. Oui, ben il a pas confiance non plus. Après, tu dis, mais s'il a pas confiance en lui, c'est parce que j'ai pas confiance en lui. Mais moi je peux pas avoir confiance en lui puisqu'il a pas confiance en moi. Donc il faut que tu aies confiance en toi, confiance en lui, pour que lui, il ait confiance en toi et confiance en lui. Tu peux faire tous les psys du monde, si tu n'as pas réglé le problème chez toi, il ne va pas se régler chez lui. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien invisible qui vous relie. Même si lui, il est à 20 000 km et toi, tu es de l'autre côté, il y a un lien transparent qui vous relie. Comme le lien avec Hachem, comme toi avec ton fils, comme toi avec ta femme, comme toi avec tes amis. C'est un lien transparent. Les gens, ils ne veulent pas croire ça. Ils inventent des logiques mécaniques, des logiques psychiques, des logiques pédagogiques, des logiques tminiques. Chacun, il invente. Mais ça ne sert à rien. Vous comprenez cette logique-là? Mais c'est dur. Pourquoi? Parce que ça s'appelle qu'on te renvoie à la maturité. Alors que nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut avoir des justificatifs d'immaturité. Dis-moi que c'est de ma faute. Dis-moi que c'est de ta faute, je te dirai que c'est de la mienne. Comme ça, on est tranquille. Comme les Allemands après la guerre, on n'a fait qu'obéir aux ordres. Donc toi tu diras, j'avais des enfants difficiles, ma femme ne me comprenait pas, mon mari n'était pas assez spirituel. Chacun aura des raisons. Mais à quoi ça sert les raisons? Qu'est-ce qu'on va faire avec? Ça sert à rien. Ce qui compte, c'est est-ce que le temps qui devait être vécu, il a été vécu. Le Shabbat après-midi, je fais un petit cours à des jeunes filles. Des jeunes filles comme ça, 16, 17 ans, 18 ans, des jeunes filles religieuses. Alors, je leur pose des questions. Alors, elles me répondent, elles me disent, « Oh oui, mais il y a des exceptions. » Je dis, « Oui, mais tu parles de la règle ou des exceptions ?» Enfin, je parle, elle me dit, « Oui, mais des fois, ça peut arriver que, oh, il y a des gens comme ça, il y a des gens comme ça. » Je dis, « Pourquoi ?» J'ai pas compris. Pourquoi à chaque fois, je vous donne un grand secret. Au lieu de chercher l'exception, ou de chercher la généralité, ou de chercher les trucs qui concernent les autres et pas nous, quand moi je parle, je dis, viens, profitez. Moi, je parle pour moi. Eh bien, vous, parlez pour vous. On va gagner du temps. Vous comprenez ou non? Les gens, la moitié de leur vie, ils t'expliquent par rapport à leur mari, par rapport à leur femme, par rapport au psy, par rapport au bon Dieu, par rapport au temps, par rapport à tout. Mais d'accord, mais alors, pendant tout ce temps-là, ils sont décalés puisqu'ils n'ont jamais vécu leur vie. Tu commences par toi. Tu vois, là, je suis pas bien. Là, je suis pas bien. Alors, je voudrais bien que ça s'arrange. Alors, je vais tout faire pour que ça s'arrange. Non, je dis non, tu sais pourquoi je suis pas bien, à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça. Alors, pendant ce temps-là, pendant que tu as lancé toutes ces enveloppes-là, le temps qu'elles reviennent, tes enveloppes, pour t'expliquer qu'il y a marqué ton adresse dessus. Parce que c'est marqué, tu les mets à la boîte aux lettres, tu marques ton adresse, tu le mets à la boîte aux lettres. Donc, il part à la poste, il part au centre de tri, il part chez le facteur, il ramène chez toi. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous? On envoie des enveloppes. Mais sur l'enveloppe, il y a marqué notre nom. Donc ça revient chez nous. Mais comme ça revient 10 ans après, on dit pendant 10 ans, je pourrais dire que c'est à cause de l'école. La femme. Alors, c'est pas pour culpabiliser. C'est seulement pour vivre sa vie. C'est tout. Pourquoi? Parce que quand tu as posé la bonne question, peut-être que tu peux aborder la bonne réponse. Et ça va aller très bien. Comprenez ou non? Bah, ton mari, en fin de compte, tu l'adores. Alors dis-lui. Ah non, il va croire. Tes enfants, ils sont bien. Alors prends-les dans tes bras. Non, je suis très déçu. Il faut être dur avec eux. Eh ben, vas-y, débrouille-toi maintenant. Vas-y. Vas-y, va gérer. Vas-y. Va gérer. Va gérer 20 ans de froideur et 10 ans de rancune et 14 ans d'ambition. Vas-y, va prendre le cumul des trois. Ça fait un ulcère. Ouais, c'est logique, ça. Maintenant, moi, j'ai pris un exemple, encore une fois, toujours, par rapport à quelqu'un qui est proche. Parce que le lien, il est facile à percevoir. Mais avec Hachem, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence, puisque nous sommes les enfants d'Hachem. Peut-être même, je vais aller un peu loin, peut-être même que le lien de père à fils, il a été créé pour que tu comprennes le lien de père à fils. Peut-être. Je ne sais pas si vous me suivez. Vous me suivez ou non? Toute la règle de qu'est-ce que tu dois à tes parents, comment tu les corresponds, comment tu leur ressens, comment tu vis avec eux, comment tu es lié. Toute cette logique-là, peut-être qu'elle n'a été créée que pour que tu essayes d'imaginer les liens que tu pourras entretenir avec ton père dans le ciel. Parce qu'il y a l'intérêt. Le bon Dieu, il aurait pu faire que chacun, il naît comme ça spontané, il naît tout seul, sans père ni mère. Ouais? Et après, on aurait des mitzvot de se lier aux gens, d'avoir des obligations envers les gens, de respirer avec les gens. Pourquoi il a créé la notion de parent? À quoi elle sert? Elle sert à rien. On aurait pu faire des banques de sperme avec des mères pondeuses, porteuses, et après le bébé est né, hop, on le met à la mairie, il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère. On aurait fonctionné. Pourquoi non, il faut que tu aies un père, avec tous les problèmes, et les soucis, et le complexe d'Oedipe, et l'angoisse, et Freud, et Lacan, et la Torah, et le respect, et les obligations. Pourquoi faire tout ça? C'est rien pour te figurer un croquis de la relation que tu voudras tenir avec ton Dieu là-haut. Parce que la reconnaissance envers ton Père, ben, c'est l'envers Dieu, ah, d'accord. Le respect envers ton Père, ben, c'est l'envers Dieu, ah, d'accord. La crainte de ton Père, ben, envers Dieu. La notion de la limite est de Dieu. Et la notion de la récompense est de Dieu. Et la notion de la punition est de Dieu. Ben, là, c'est ça, c'est pareil. Tous les schémas relationnels que tu entretiens avec tes parents, c'est les mêmes que tu entretiens avec Dieu. La seule différence, c'est que là, c'est concret et là, c'est abstrait. Alors peut-être qu'un jour tu vas comprendre que les deux c'est concret ou les deux c'est abstrait comme tu veux. Ça va? Maintenant moi je donnais un exemple par rapport aux parents. Maintenant tous les schémas c'est les mêmes parce qu'il y a des règles entre l'homme et la femme, il y a des règles entre toi et tes obligations, entre toi et tes devoirs, il y a même des règles invisibles entre toi et toi. D'accord? Est-ce que je suis moi-même? Est-ce que je me respecte à moi? Est-ce que je suis cohérent avec moi? Est-ce que je me donne les moyens moi? Est-ce que quand ce que je dis, je le pense? Est-ce que je le vis? Est-ce que je le suis? Tout ça, c'est quoi? C'est un lien transparent que j'ai avec moi-même. C'est qu'on va rendre des comptes à la fin de la vie. Est-ce qu'on est devenu la personne qu'on était censé être? Tu m'attends. J'ai que ça à faire, moi, de m'occuper de moi? Bien sûr que tu dois. Oui? Donc, si vous prenez l'ensemble de tous ces liens transparents, ça donne le lien invisible avec les choses fondamentales. Maintenant, comment on appelle le mode de gestion du monde transparent? La Torah. C'est le mode de gestion du monde transparent. C'est ça une mitzvah. C'est pas une béar, c'est pas une bonne action. Ça, c'est chez les scouts. C'est ça qui s'appelle scout. Parce que scout. Scout, ouais. Ouais. Encore une fois, ils ont voulu détoraiser le principe. Ils ont enlevé la mitzvah de la Torah. Parce qu'ils pensaient que ça complexe les gens de leur dire « t'as des commandements, t'as des obligations envers ton créateur ». Je comprends pas ça. Depuis quand les obligations, ça stresse? Mais dis-moi, tu respires, non? T'es bien obligé. Eh ben arrête de respirer, parce que t'es libre. Tu vas mourir. On voit clairement que tu as compris. Pourquoi tu vis pas sous l'eau? J'y arrive pas. Pourquoi tu manges tous les jours? Pourquoi tu vas aux toilettes? Arrête d'y aller. Comment tu peux subir cet assujettissement naturel à un acte aussi bas? Alors va nous faire une petite occlusion intestinale. Tout le monde va aux toilettes. Et pourtant, ce n'est pas une mitzvah. Hein. C'est qu'on est d'accord tous qu'on a des obligations. Encore une fois, ce n'est pas le problème de l'obligation. Le problème, c'est la relation que tu entretiens avec. Ce que toi, tu appelles une contrainte. Oui. chez l'autre, s'appelle un outil d'évolution. Donc ça veut dire quoi? L'autre, par exemple, il a un cerveau très puissant. Donc c'est une contrainte. L'autre, il ne l'a jamais utilisé. Donc il est libre. Il est libre. Comme un morceau de papier crépon dans un tsunami. La bêtise, c'est la forme de liberté maximum. Et d'un autre côté, c'est la soumission maximum puisque tu subis tout le reste. Tu subis tout le monde puisque tu n'es pas autonome. Donc maintenant, la Torah, elle vient. Elle dit que chaque Ben Israël, ouais, il a une lettre dans la Torah. Il a une lettre dans le Sefer Torah. Ça veut dire qu'il doit dévoiler un morceau d'Hachem. C'est clair? Maintenant, on dit que... Vous savez comment ça c'est un Sefer Torah? On prend des pots, ouais, et on les coud ensemble. Ça s'appelle la Tfira. Maintenant, vous savez que si à un endroit, le Sefer Torah, le fil, c'est-à-dire la couture, est détachée sur la majorité de la taille, il n'est pas cachère. Mieux encore, on dit quand on referme le Sefer Torah, il faut mettre la couture au milieu. Pourquoi? Parce que le fait qu'il y a la couture au milieu, ça prouve que ce qui compte, c'est pas simplement que le Sefer Torah, il ait tous les éléments, c'est aussi le fait qu'il soit relié. Regardez par exemple, si le Sefer Torah, c'était des parchemins séparés les uns des autres, on n'aurait rien dit. Il y a 52 parachiotes, ouais, 52 textes. Donc on aurait découpé, on aurait écrit chacune sur un parchemin, on les aurait mis une dans l'autre et on aurait sorti. Pourquoi il faut les coudre ensemble? C'est ça l'unité. Ouais, c'est ça l'unité. C'est-à-dire que moi, je peux rien faire sans l'autre. Et l'autre, il peut rien faire sans moi. Tu dis, mais attendez, oh là, je vous vois venir là. Mais on n'est pas tous pareils, hein. On n'a rien à voir avec les autres. L'autre, il est plus religieux, l'autre, il est moins religieux, l'autre, il est bête, l'autre, il est intelligent, l'autre, il est très profond, l'autre, il est très léger. Mais c'est comme le corps. Vous avez regardé un corps déjà? C'est intéressant. Il y a le cœur, le cerveau, l'estomac, les intestins, le côlon. C'est moins noble déjà. Les ongles, on en perd. Les cheveux, on en perd tous les jours. Pourtant, ça fait une partie de toi. Si tu vas chez quelqu'un, tu lui dis, bon, dis-moi un membre qui sert à rien, je vais te l'enlever. Tu peux enlever quoi? Un membre qui sert à rien. Tu peux pas de la cellulite. Un membre. Tu peux rien enlever. Tout sert à quelque chose. Même le petit lobe de l'oreille, là, cette petite chair, tu sais, ça sert à rien. C'est... Ils ont dit, les neuros, je sais pas quoi, là, que si quelqu'un il se fait enlever un bout de l'oreille, ça crée un micro-déséquilibre dans la forme du visage qui va faire qu'il va avoir des problèmes d'équilibre dans la tête et ensuite des problèmes d'orientation. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui sert à rien. Et dans le corps, tout participe à la santé, comme on a expliqué tout à l'heure. Quand il y a un virus ici, c'est un virus partout. D'accord? Et le corps, c'est quoi? C'est des énergies. Par exemple, vous savez, quand il fait froid, on a les mains froides. Pourquoi? Parce que comme la main, elle est en contact avec l'air de tous les côtés, donc il y a une très grande déperdition de chaleur. Donc qu'est-ce qu'il fait le corps quand il fait froid? Il envoie la chaleur vers l'intérieur du corps, qui lui a plus besoin de chaleur. Quand vous digérez, vous avez plus chaud au ventre. Quand vous courez, il y a plus de sang dans les jambes. Quand vous réfléchissez, le cerveau, il a besoin d'être oxygéné, donc le sang, il monte à la tête. Donc c'est quoi cette logique? C'est que le corps, il accepte, lui, que chaque membre, il a une fonction. Alors comment toi tu peux refuser que l'autre il a une fonction? Tu dis, lui il a sa vie, moi j'ai ma vie. Tu peux pas. Je vous avais expliqué ce paradoxe, c'est que sur un certain angle, les nazis étaient moins antisémites que nous. Puisque les nazis acceptaient tous les juifs. Alors que toi, on va dire, tu veux que ta fille se marie avec un Marocain, un Ashkenaz, tu dis, chas v'shalom. Alors qu'eux, ils acceptaient tout le monde. Vous êtes juifs, rentrez. Tu te dis, nous voulons nous disperser. Nous, on va vous concentrer. Ils ont fait des camps de concentration. Quel est le point commun? On ne parlait pas la même langue. Il y avait des mecs de France, des mecs de Tchétchénie, des mecs d'Angleterre, des mecs de Hollande. Quel était le point commun dans le camp de la mort? Tous juifs. Tu dis, mais moi, je ne traîne pas avec les pauvres. Tous dans le camp. Mais je ne traîne pas avec les Ashkenazim. Tous. Des Marocains, tous, 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 tous. Pas de différence. Ah, mais la beauté nous différencie. Tout ça t'est écrasé. Ah, mais moi, je sens un grand nom, j'ai un grand nom. Tous des numéros. Ah, mais moi, j'ai des beaux habits. Tous des pyjamas. Toi, t'as voulu faire une différence, et le nazi, il te dit, vous êtes tous pareils. C'est incroyable, non? Et c'est toujours comme ça. Tu vas me dire, mais ça, c'est horrible, c'est une horreur. Bon, ça vous fait peur, ça vous angoisse, d'accord. On est tous égaux devant la maladie. Quelle différence entre un riche qui a un cancer et un pauvre qui a un cancer? Il n'y a pas de différence. Donc on est tous pareils devant la maladie. On est tous pareils devant la responsabilité. Toi, t'as fait une grosse bêtise. Et l'autre, il a fait une grosse bêtise. Vous êtes tous pareils, les deux. On est comme ça, de brel. Tu sais, j'ai honte. Tu dis non, mais moi, si je suis riche, à un moment ou à un autre, t'es seul devant ta responsabilité. Donc on est tous pareils. Alors on est seul devant la maladie, on est seul de. Si t'es un mauvais père ou une mauvaise maman, que ce soit un riche ou pauvre, t'es un mauvais père ou une mauvaise mère. Ça change rien. Comprenez ou non? C'est-à-dire qu'en vérité, c'est quoi la logique? C'est que quand quelqu'un, il refuse d'accepter l'unité, on va l'acculer dans une dimension où il est obligé d'être ensemble. Obligé. C'est incroyable. Et ça, c'est quoi? C'est la logique du libre-arbitre. Que la logique du libre-arbitre, c'est quoi? C'est un luxe. Mais quand toi, tu refuses le libre-arbitre, ouais, le bon Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il t'oblige à rentrer dans un système où tu n'as plus de libre-arbitre. C'est la vie. Mais comme moi, mec, tu dis voilà, tu peux dire ou la vérité ou le mensonge. Dis la vérité, tu dis non. Alors on va t'attraper quand tu mens. Après, quand tu mens parce que t'as menti, on t'attrape quand t'as menti parce que t'as menti. Après, tu t'enfonces dans le mensonge. Pourquoi? C'est conique. Oui? Tu dis je veux pas payer. Paye, c'est une loi. T'as voté une loi qu'il faut payer. Paye. Tu je paye pas, on t'augmente. Je paye pas, on t'augmente. Je paye pas, on t'augmente. À la fin, tu te retrouves à 400, à 500 euros pour un PV à 11 euros. Tu fais partie d'une société, il y a une loi. La loi, tu la refuses, elle t'enfonce. C'est la même loi. Mais c'est pareil. Tu sais que ton corps, il supporte pas le sucre. Arrête de manger du sucre. Je m'en fous, j'aime le sucre. Eh ben, tes problèmes de sucre. Ah, problème de foie, un problème de cholestérol, un problème cardiaque. Quoi? Quoi? Et jusqu'à ce que tu vas chez le docteur, je vais dire, je vais arrêter le sucre. Alors, quelle différence entre ton corps qui t'oblige à arrêter le sucre, l'anorexie de ta fille qui t'oblige à communiquer, ouais. La dépression de ta femme qui t'oblige à être présent. Tu vois bien que la vie, elle t'oblige quand tu la refuses. Et plus tu refuses, plus ça t'oblige. Mais en fait, ça t'oblige à quoi, en fait, si tu réfléchis bien. Comme dans un mariage, qu'est-ce qu'elle veut ta femme? Elle veut quoi? Elle veut que tu donnes le meilleur de toi-même. Et toi, qu'est-ce qu'il veut ton mari? Il veut que tu donnes le meilleur. Maintenant, il est maladroit, elle est maladroite, elle te stresse, elle t'engueule, elle dit ouais, c'est nul, tu peux faire mieux, pourquoi tu fais ça? Mais t'as qu'à grandir, grandis au niveau business, grandis au niveau Torah, grandis au niveau ton rôle. En fin de compte, qu'est-ce qu'il veut l'autre? L'autre, il veut que tu grandisses, l'autre, il veut que tu donnes le meilleur. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'il veut l'autre? Il veut que tu sois meilleur. Ça, c'est vous. Comprenez ou non? L'autre, il veut que tu sois meilleur. Mais non, c'est bien d'avoir des gens qui veulent que toi, tu sois meilleur. C'est-à-dire que le monde entier, il est fait pour que tu sois meilleur. Donc en fin de compte, c'est quoi la bagarre? La bagarre, c'est entre des gens qui vont te pousser à être meilleur et toi qui n'as pas compris qui te pousse à être meilleur. Alors les parents, ils disent, mais de toute façon, c'est pas pour moi, c'est pour toi que je le fais. La femme, elle dit, mais toi, c'est quoi mon intérêt? C'est que tu sois épanoui. Le mari, c'est pareil. Il veut que sa femme soit heureuse. Oui? Mais, où on est maladroit dans la manière, où on est maladroit dans la manière de le recevoir. Mais le fond, le fond. Tous les gens ont des parents gentils. Tous les parents sont gentils. Même l'alcoolique qui frappe son fils, il est gentil. Il est maladroit. Peut-être qu'il a un passé psychologique un peu fragile, mais il aime son fils. Il l'aime de manière maladroite. Vous avez compris cette logique ou non? Maintenant, l'enfant, non. Lui, il va pas voir que le père, il aime. Il va comprendre que le père le frappe. En fin de compte, c'est que des décalages. Sur la base de quoi? De l'unité. Maintenant, encore une fois, moi, je prends l'exemple, le père et le fils. Maintenant, tu prends tout Israël. Et tu essaies de voir de manière entramée, de voir le lien transparent qui relie tout le monde. D'accord? Par exemple, des fois, on va voir des tzadikim. On va demander du rabbanim, on va voir. Si c'est pas possible. Le Rav, il m'a répondu à moi. Le Rabbi Lubavitch, il recevait des milliers de personnes. Il donnait une réponse à chacun. Celui qui vient de France, il lui parle en français. Celui qui vient parle en anglais. L'autre, type. Mais comment il sait? Le Rav Char, le Baba Salé. Mais comment les tzadikim, ils arrivaient à être proches de chacun? Bah parce qu'ils aimaient tout le monde. Quelqu'un qui aime tout le monde, il est proche de tout le monde. C'est pas parce qu'on dit c'est un grand sadique. Non, ce qui est difficile, c'est pas d'être un sadique. Ce qui est difficile, c'est d'être proche de tout le monde. Maintenant, quand tu es proche de quelqu'un, tu le comprends, tu le ressens, tu sais ce qu'il veut, tu sais ce qu'il attend, tu lui donnes ce qu'il a besoin, c'est normal parce que tu es proche. Comme tu veux ou non. Maintenant, nous, on se cache derrière le fait qu'il faut être, qu'il faut connaître toute la Torah entière, qu'il faut jeûner pendant 44 ans. Non, 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 non. Tu vas jeûner de ton égoïsme. Tu as fait un jeûne d'égoïsme pendant 10 ans. Tu deviens généreux. T'as compris ou non? T'as fait un jeûne de bêtises, tu deviens intelligent. T'as fait un jeûne d'entêtement, tu deviens zarise. Hop, tu bouges. Cette logique, c'est quoi? C'est que chacun, il peut aimer l'autre. C'est ça qu'on dit que le tzaddik, il aime tout le monde. Le tzaddik, il a Ahavat Israël. Ahavat Israël à 100%. D'accord? Alors celui qui a Ahavat Israël à 100%, ses élèves, ils ont Ahavat Israël. Parce que comme on a dit, le père et le fils, ça se transmet. Et bien le rav et les élèves, c'est pareil. Donc si les élèves, ils n'ont pas Ahavat Israël, c'est qu'au fond, le rav, il n'a pas Ahavat Israël. C'est comme ça. C'est pas bien pour moi, parce qu'en tant que rabbin, je pourrais dire, c'est pas bien. Mais c'est pas grave, je vous dis, au pire, c'est vrai. C'est-à-dire quoi? C'est que quelqu'un, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il reçoit. Toujours, je donne cet exemple. C'est comme si le nazi vient, il dit... Je te tue, non, je vais tuer toute ta famille et toi je te laisse vivant. Alors l'homme dit, non, je ne pourrais pas supporter. Alors il dit, ah bon, alors toi je vais te tuer et eux ils vont vivre. Alors le père il est content, il danse. Oui. Alors c'est pareil, on dit, le tzaddik, il est kapara l'Am Israël. C'est un misber kapara. C'est-à-dire le tzaddik, en vérité, il aime tellement le peuple d'Israël qu'il prend sur lui les souffrances. Toujours je vous donne cet exemple, quand vous allez voir un tzaddik, quand vous allez... Vous êtes mal. Quand vous ressortez, vous vous sentez mieux. Jamais vous demandez où est-ce qu'elle est passée, mon angoisse. Ben, tu prends une bouteille, tu la verses. Elle est dans le plat maintenant. Ouais, tu dis pas, elle a disparu. Donc si ton angoisse, elle a disparu quand tu sors chez le tzaddik, c'est que le tzaddik, il l'a pris. Tu dis, grâce à Dieu qu'il y a des tzaddikim. Mais réfléchis, lui reçoit 70 personnes par jour. Chacun, il vit avec un truc qui l'étouffe. Donc lui, il absorbe 70 étouffements par jour. C'est une machine à brûler l'âme. C'est pour ça qu'on dit le tzaddik, il est misber kapara. Il brûle l'autel, il brûle. Ouais. Maintenant, comment il arrive à brûler tellement? Tu sais pourquoi? Parce que ça ne le concerne pas. Il brûle. Il n'a pas un moi qui lui dit, moi, comment je vais faire? Il n'a pas un moi qui dit, ah, mais moi aussi j'ai mes problèmes. Il n'a pas un moi qui dit, mais où je vais trouver l'argent? Il n'y a pas. Donc comme il n'y a pas de moi qui bloque, il n'y a pas de limite. Alors qu'un autre, il a des limites. Il dit, attends, vous savez, je ne peux pas être partout, c'est pas évident, c'est difficile, vous ne vous rendez pas compte, j'ai mes problèmes, j'ai ma vie, j'ai mes soucis. Ah bon, alors d'accord. Alors donc, tu ne pourras contenir qu'une certaine quantité. Mais l'autre, il n'a pas de limite. C'est pour ça qu'on dit tzaddik qui est sodre olam. Le tzaddik, il est la base du monde. Ouais. Maintenant, vous prenez une pyramide à l'envers. Ouais. C'est quoi une pyramide à l'envers? Le haut, c'est large. Le bas, c'est pointu. D'accord? Ça, c'est quoi? C'est que tout Israël repose sur chaque acte de chaque individu. Comme dit la Gemara, chaque fois que tu fais quelque chose, tu dois réfléchir. Peut-être que le monde, il a 50% de mérite et 50% de condamnation. Et si je fais une faute de plus, peut-être ça va entraîner le monde entier vers la condamnation. Ou peut-être si je fais une mitzvah en plus, ça va entraîner le monde entier vers le bien. Ça va? D'un autre côté, on te dit, le peuple d'Israël, il ressemble à une pyramide comme ça. Pourquoi? En haut, il y a le Kohen Gadol. En dessous, il y a tous les Kohanim. En dessous, il y a tous les Lévim. En dessous, il y a tous les Israël. Si on tire sur le Kohen Gadol, on tire sur tout Israël. Donc le tzaddik, on le met en haut de la pyramide. Quand lui, il s'élève dans la spiritualité, il tire tout Israël. Donc on a une pyramide en haut, une pyramide en bas. Les deux, ça fait une Magen David. Toujours tu réfléchis que toi, peut-être que tu es responsable en bas, peut-être que tu es responsable en haut. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours quelqu'un au-dessus de toi et toujours quelqu'un en dessous de toi. Toi, tu es plus religieux que lui. Et tu es moins plus religieux que lui. Qu'est-ce que tu veux faire? Toi, tu es plus mature que lui. Mais tu es moins mature que lui. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc toute la vie, en réalité, on se situe. Oui? Maintenant, encore une fois, si on fait l'effort. C'est comme par exemple, les lasers, là, je sais pas quoi, on les voit pas. Les rouges, les rayons, on les voit pas. Après, tu mets une certaine lunette, tu les vois. Ouais. Imaginez maintenant, on porte des lunettes où on voit le lien qui existe entre toutes les personnes. Oui ou non? En fin de compte, j'ai compris que là, il n'a rien de celui-là. C'est pour ça que celui-là, il n'a pas d'enfant. J'ai compris que la haine de celui-là, c'est pour ça que celui-là, il n'a pas de parnassa. J'ai compris que la jalousie de celui-là, c'est pour ça que lui, il ne réussit pas. Ah, j'ai compris que l'amour de celui-là, c'est pour ça que celui-là, il s'épanouit. J'ai compris que cette mora, elle développe une énergie qui fait que les enfants, ils apprennent bien. J'ai compris que cette maman, elle a aidé sa voisine à faire teshuva. Vous avez compris cette logique-là? Imaginez, on voit les transports, on les voit pas, les rayons. Mais si on les voyait. Maintenant, l'ensemble de tous ces rayons, ça s'appelle l'unité d'Israël. C'est un tissu. Maintenant, la trame, elle peut être très très serrée, des millions et des millions de traits, elle peut être très large. Tous les 6 mois, il se passe un événement. Alors, on a demandé, est-ce que cette unité-là, c'est une utopie ou c'est une réalité? En vérité, c'est très compliqué à définir. Parce que chacun, comment est-ce qu'il va? Il va investir à l'intérieur, comment il va s'habituer à vivre avec des choses qui ne se voient pas. Je vous avais raconté ça une fois, quand j'étais jeune, qu'est-ce que je faisais? J'ai essayé de m'entraîner à marcher avec les yeux fermés. Vous avez jamais essayé de faire ça? Jamais? Je ne vous ai pas raconté ça? Vous prenez une avenue large, il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. Et vous êtes par exemple à 1 mètre des voitures, sur le trottoir, et vous dites tiens, je vais marcher 10 mètres. Et vous fermez les yeux, vous marchez?
Vous marchez, avec les yeux fermés. Mais j'ai peur. Si je marche.
C'est là que tu vas savoir si tu marches droit ou tu ne marches pas droit. D'accord? C'est bon? Là, c'est une image. Toi, tu crois que par rapport à ta famille, tu fais tes obligations. Eh bien, ferme les yeux, tu vas voir. Ouvre les yeux. Toi, tu crois par rapport à la Torah, tu fais tes obligations. Il faut t'habituer à marcher avec les yeux fermés. Traduction, c'est que quand tu fermes les yeux, ouais, quand tu fermes les yeux, c'est là que tu vois vraiment. Par exemple. Vous voyez? Pourquoi on a peur quand il fait noir? Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe autour. Maintenant, il y a un phénomène. Quand tu as les yeux ouverts, tu vois tout. Comme tu vois tout, c'est très très dur de te concentrer. Par exemple, les enfants, des fois, ils ont du mal à l'école parce qu'ils regardent ce qui se passe dehors, ils regardent son copain qui joue avec une boulette, ils regardent le truc, tu dis, mais essaye de te concentrer! D'accord. Mais tu as des adultes, ils ont 35 ans, tu leur parles. Ils ont la tête là-bas. Ils ont le souci, la voiture est mal garée. Après, le client, il n'a pas rappelé. On te dit, oui, mais je t'écoute, vas-y, continue à parler. Après, il pense, et en ce moment, entre eux, et Poutine, il a dit ça, et l'autre, et Bush, et Obama, et Baba. Tu dis, mais je comprends pas, moi, j'arrive pas à parler avec toi. Je vois que ta tête, elle est dispersée. Oui? Il y a cette difficulté-là de se concentrer. Pourquoi? Parce que tu as les yeux ouverts. Par contre, quand il fait noir, ouais, qu'est-ce que tu fais? Tu reviens vers toi. Tu te concentres sur toi-même. C'est dans le noir. Donc le noir, qu'est-ce qu'il fait? Il t'oblige à revenir vers toi. C'est clair? Donc maintenant, c'est pareil. On va dire que les yeux ouverts, ça correspond quoi? À la dispersion. Et les yeux fermés, ça correspond pas à la concentration. Donc peut-être que nous, on n'arrive pas à se concentrer parce qu'on ouvre trop les yeux. On ouvre trop les yeux. Ferme les yeux. T'es avec ton fils? Ferme les yeux. T'oublies tout. T'es avec ta femme, ferme les yeux. T'es à la synagogue, ferme les yeux. Je sais plus qui c'était, je crois que c'est le Gaon de Vilna ou le Harizal. Il disait, comment un juif, il peut prier avec les yeux ouverts? C'est impossible. C'est impossible, comment il va se concentrer? Il faut qu'il ferme les yeux. Comment tu peux penser à Dieu, alors tu vois ton copain, tu vois son costume, tu vois l'ambiance, tu vois la voisine qui est au premier étage. Comment tu peux penser à Dieu? La tête, elle marche un milliard de kilomètres par seconde. Donc en vérité, t'as pensé à tout sauf à Dieu. Ferme les yeux. Alors je te dis, tu fermes les yeux, tu vas voir les rayons laser. Tu fermes les yeux, tu vas voir les tenants, les aboutissants. Tu vas voir les causes, les conséquences. D'un seul coup, tu vas voir clair. Oh là là, mais c'est clair. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait nous? On ouvre les yeux. Par exemple, la société, aujourd'hui, on ne comprend rien à ce qui se passe dans le monde. Pourquoi? Alors les gens y croient parce qu'on n'est pas assez informés. C'est faux, c'est parce qu'on est trop informés. On est tellement informés. Il y a qu'en réalité, on n'est pas informé, puisque tu prends l'AFP, les annonces de l'AFP, les infos à la radio, les infos dans la télé, les infos dans les petits journaux gratuits et les infos dans les journaux payants, c'est les mêmes informations. Donc en fait, tu ne fais que relire la même chose. Et tu crois que tu es informé. Après, tu as des analyses, tu as des développements, tu as des perspectives, des prévisionnels, des très loyaux, mais ça, c'est de la mousse. Donc tu as un morceau de savon qui est faux, et avec un morceau de savon qui est faux, on a fait une encyclopédie de mousse. D'accord ? L'autre, il ferme les yeux, il réfléchit. Il va te dire, ça, c'est lié à ça. Comment les autres l'ont pas vu ? Surinformation. D'accord ? C'est pareil. Si j'arrive pas avec ma fille, j'arrive pas. Tu vois, il y a la mode, il y a la religion, il y a les trucs, il y a les caractères, il y a sa mère, il y a les trucs, il y a les nerfs, il y a le loyer, il y a l'école qui m'a truqué, j'ai un mot. J'ai dit, écoute, c'est qui ta fille ? Ferme les yeux, c'est qui ? Boum ! C'est clair. Surinformation. Comprenez ou non ? C'est pareil. C'est quoi la prière ? Tu sais, il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup de... Tu fais la prière ? Oui, super. Tu parles à Dieu ? Non. Ça fait 10 ans qu'il fait la prière. Il a oublié de parler à Dieu. C'est comme, vous avez remarqué, quand on veut voir un rave, on prépare plein de choses. Quand on arrive, on n'a plus rien à dire. Vous avez remarqué ça ou non? Tu as préparé plein de trucs, tu as rendez-vous avec Baba Salé, avec un sadique. Tu as préparé pour le mariage de ta fille. Blablabla. Et quand tu arrives, tu dis Astaharaba, Amen. Mais pourquoi je ne l'ai pas dit? Pourquoi je ne l'ai pas dit? Les babas, tout ça, c'est des prétextes pour avoir un contact. Mais le but, c'était le contact. Eh bien, t'as eu le contact. C'est ça, la bracha. La bracha, c'est le contact avec l'essentiel. Tout le reste, c'est des prétextes. Vous me suivez ou non? C'est comme s'il fait... Tu veux dire à ta femme ce que tu penses? Eh bien, dis-lui. Ah, mais tu crois, c'est ça? Non, non, non. Tout ça, c'est des enfantillages, c'est des bêtises. Mais en vérité, c'est le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas le contact. Et le contact, on a dit que c'est le lien transparent. Maintenant, tu prends l'ensemble des liens transparents qui existent entre les Bnei Israël, ça s'appelle l'unité. Mais c'est très très puissant. Pourquoi ? Parce que pareil, comment tu vas apprendre de quelqu'un s'il n'y a pas d'unité ? Je peux pas. Moi, par exemple, j'essaie de vous enseigner quelque chose. Il faut que je sois lié à vous, sinon ça ne passera pas. Maintenant, vous, il faut que vous soyez lié à moi, sinon ça ne passera pas. Donc il faut qu'on crée l'unité. Après, est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez cru comprendre? Comment vous savez ce que vous avez compris, ce que vous allez transmettre? Après, tu vas dire, oh, c'est pas ça qu'il a dit. Ah bon? Comment ça se fait? Pourtant, vous l'avez entendu le même. Après, comment l'autre, il va comprendre? Ça fait déjà troisième niveau. Kélish Lichy. Kélish Lichy est nommé Vachel. C'est pas la même chose, celui qui entend, celui qui raconte. Ça va? Maintenant, la question est de savoir, est-ce que la relation qu'on entretient avec l'essentiel, c'est du direct, c'est de l'indirect, c'est pas un relais, c'est une retransmission, c'est du différé, c'est une copie, c'est quoi? T'as ressenti quelque chose? Essaie de faire passer exactement ce que t'as ressenti. Moi, ce que j'aime bien, par exemple, des fois, on me demande de parler. Je vais dans des endroits pour un SGR ou pour un... Alors je prépare un long discours et après je jette la feuille. Je sais pas si vous me suivez. Je prépare maintenant la Gemara, le Midrash, le truc, et quand j'arrive, je jette la feuille et je parle. C'est comme une fois, j'avais vu ça dans un film. Un type, c'est un tireur d'élite. Ouais. Il a mis sur un pied le fusil, il a réglé pendant des heures, il a réglé. D'accord ? Et au moment de tirer, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a enlevé le fusil, il a enlevé le pied, il a visé, il a tiré. C'était un grand moussard. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que tu vas produire, toi ? Un niveau très très sophistiqué de communication, ou alors le niveau le plus intense de sincérité. Qu'est-ce qu'on transmet, à votre avis ? De la spontanéité ou de la connaissance ? Moi, pour vous dire, moi, le Rav qui m'a réveillé, il parlait très mal le français. Et il bégayait. Donc celui qui va me dire le charisme, la fluidité du discours, la percutance des mots, l'équilibre entre les émotions, les perceptions, les images transmises, moi j'y crois pas. Et je peux vous dire, je peux faire de la formation en communication, et j'y crois pas. Mais il avait une Yirat Shamaim il avait une crainte d'Hachem qui était tellement puissante que même en bégayant, tu l'as recevé. Tu la reçois encore aujourd'hui. Il est Baruch Hashem, il existe. Vous comprenez ou non? C'est ça qui est difficile en vérité. Ce qui est difficile, c'est de transmettre de la spontanéité. De transmettre de la technique, c'est rien, ça s'apprend. Il y a des écoles d'orateurs, il y a des facultés, il y a des yeshivotes. La connaissance, c'est rien du tout. C'est rien que de la flemme que les gens, ils ont de la paresse d'apprendre et de préparer, de calculer. Mais en vérité, n'importe qui peut faire n'importe quoi du moment qu'il se prépare bien. Le problème, c'est quoi? C'est que le type, quand il va bien se préparer, peut-être que dans le cheminement de sa préparation, il va perdre la spontanéité. Alors c'est pareil. On fait des mitzvot, on mange kasher, on étudie la Torah, on est gentil avec nos parents, avec nos enfants. Mais le but, c'est quoi? C'est de créer un lien avec Hachem. Si on n'a pas créé le lien, ça ne servait à rien tout ça, c'était du folklore. Donc comment tu vas dissocier l'unité avec Hachem et l'unité avec l'autre, alors que l'autre n'est que la partie de Dieu qui apparaît en relief? Qu'est-ce que tu dois chercher chez ta femme? Hachem derrière ta femme. Qu'est-ce que tu cherches chez ton mari? Hachem derrière ton mari. Qu'est-ce que tu cherches chez tes enfants? Hachem derrière tes enfants. Comment on appelle ça? Mais kol echad v'echad v'Israël, yeshlo tselem Eloki. Mais c'est quoi tselem Eloki? On a appris ça en chassidut, oui. Mais c'est quoi le tselem Eloki? C'est quoi? Je crois bien, c'est que chacun, il contient une neshama, qui est une partie de Dieu. Mais non, détends-toi. Je vous ai expliqué déjà un million de fois. Quand un homme invisible, il court. On ne voit pas, il est invisible. Mais s'il tombe dans un bassin de peinture, on va le voir. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a une couche de peinture. Eh bien, quand tu dis la nature, c'est la couche de peinture qui recouvre Dieu. C'est bon? C'est bon. Eh bien, ta femme, c'est une couche de nature qui recouvre Dieu. Tu ne mets pas du tout, c'est ma femme. D'accord. Mais ta femme, qui c'est qui lui a donné l'idée? Eh bien, elle a une idée. Pourquoi elle a parlé maintenant? Eh bien, elle a parlé. Mais pourquoi elle a parlé? Eh bien, elle a parlé parce qu'elle a voulu parler. Ah bon? Mais elle a des tendances en elle. Ouais, là, Yetzira Tov, super. Yetzira, c'est quoi? C'est une tendance négative. Yetzira Tov, c'est quoi? C'est une tendance positive. Les deux, c'est des anges. Les anges, c'est quoi? C'est la volonté d'Hachem. Pour ça que je vous dis que la personne, en vérité, elle est maladroite, mais elle a une bonne intention. Puisqu'elle t'a épousé. Il faut quand même être un peu malade d'organiser des camps de souffrance qu'on appelle des couples. Ou des familles. Donc, le père, il est rempli de bonnes intentions. La maman, elle est remplie de bonnes intentions. Les enfants sont remplis de bonnes intentions. Mais, on est maladroit. Mais même en étant maladroit, on accomplit quelque chose. On crée un mouvement. Alors, quand on te dit, regarde le Tselem Eloki, regarde la silhouette de Dieu qu'il y a dans chaque personne, ça veut dire, essaye de percevoir qu'est-ce que Dieu, il a voulu te dire à travers cet événement. D'accord? Qu'est-ce que le bon Dieu, il veut à travers l'entêtement de ma femme? Qu'est-ce que le bon Dieu, il veut à travers l'entêtement de mon mari? Qu'est-ce qu'il veut, le bon Dieu? Pas mon mari, le bon Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi? Parce que je vous avais dit à l'époque, dans la logique de la rancune et de la vengeance, c'est qu'il faut toujours faire la distinction entre l'événement et la personne. L'événement est Minashamaim, il vient du ciel, mais la personne qui va être le vecteur de l'événement, ça c'est pas Minashamaim. C'est-à-dire que le bon Dieu, il crée des courants. Il dit, voilà, il y a un courant d'air chaud, un courant d'air froid, un courant de Kapara, un courant de Parnassa, un courant de bien, un courant de mal. Maintenant, il fait des appels d'offres. Il dit, il me faut un pauvre type pour faire du mal. Il lève la main, Mechavod. Il me faut un tzadik pour faire du bien, Mechavod. En Mechaevin el aïe de Chayav, en Mezakin el aïe de Zakai. Donc quand quelqu'un il me fait une crasse, ouais, il m'a planté de 10 000 euros. Moi, qu'est-ce que je fais? Je l'en veux à lui. Mais lui, il n'est qu'un vecteur. Donc je dois faire la distinction entre l'événement de la perte de 10 000 euros, qui est Minashamaim, ça, ouais, et le fait que lui, il l'accomplisse. Et ça, c'est humain. Maintenant, moi, je pose une question. Quand un type, il a écrit un livre avec un stylo, et que ce livre, il est tellement beau qu'il a eu un prix littéraire pour ce livre, qui on récompense? L'écrivain ou le stylo? Hein? Bah alors, Rabotai, pourquoi tu en veux à l'autre? C'est que le stylo. Il faut voir celui qui tient le stylo. Ça, les mettre. D'accord, oui ou non? Ça va? Alors, moi, je réfléchis que maintenant, quand j'ai dépassé la susceptibilité, la bêtise, la lourdeur, la petitesse, la mesquinerie, je dépasse tout ça et j'essaie de voir le relief que Dieu y donne à ma vie. Ouais? Et je veux créer un lien avec ça. Donc maintenant, chaque personne que je vais rencontrer, elle va être pour moi l'occasion de rencontrer une facette d'Hachem. Mes amis, mes ennemis, mes rabbanim, ceux qui me font souffrir, ceux qui m'approchent, ceux qui m'éloignent, tout ça, c'est quoi? C'est des messages. Après, est-ce que je suis capable de les voir? Ça veut dire que celui qui ne connaît pas ses amis, il ne se connaît pas. D'accord? Mais celui qui ne connaît pas ses ennemis, il ne se connaît pas non plus. Par exemple, quelqu'un dit, c'est quand même bizarre que je suis entouré que de menteurs. Tu dois être un menteur. Si vous voulez. Je suis entouré que de gens intelligents. Tu dois être intelligent. Je suis entouré que de gens radins. T'es un radin. C'est ce qui se ressemble, ça semble. C'est rare de voir un poisson qui marche dans la jungle. Il n'est pas en milieu adapté. Par contre, si t'es toi, tu marches de travers, tu dis je dois être un crabe. C'est normal. Tous les crabes marchent de travers. Donc tu vois bien qu'à ce niveau-là, les choses que la vie elle te renvoie, elles te définissent. Alors maintenant, qu'est-ce que tu dis toi? Tu dis je vais faire exactement la même chose avec la Torah. Moi, je vais essayer de comprendre comment est-ce que cette personne-là, elle fait partie de mon Sefer Torah à moi. Si vous avez dit, mais alors ça n'a rien à voir. Le Sefer Torah, il est là. Oui. On le sort chaque Shabbat, lundi, jeudi, on le montre. C'est le Sefer Torah. Mais c'est marqué qu'en ce moment même, Akadosh Baruch Hu, il est en train d'écrire un Sefer Torah. Qu'est-ce qui marque dedans? Notre vie à nous. Maintenant, c'est quoi le Sefer Torah? C'est nous. Oui. Et on écrit nous-mêmes avec nos actes. C'est-à-dire que tout ce qu'on vit, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, on l'écrit. Après, à la fin de la vie, qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu? Il ouvre le Nefesh. Le Nefesh, c'est un Sefer. La Gemara, elle dit, si Aaron, il avait su qu'on allait écrire dedans, qu'il a accepté de participer au Hegel, oui, il se serait tué plutôt que de... Mais pourquoi vous croyez que Aaron, il a de la peine de savoir qu'on va écrire dans le Sefer Torah, et nous, on n'a pas de la peine que le bon Dieu, il est en train d'écrire dans le Sefer Torah? Mais je vous ai dit que Dieu, il donne la Torah. Il n'a pas donné, il donne. Donc, il est en train d'écrire un Sefer Torah. Donc, quand Mashiach, il va venir, il va offrir le Sefer Torah qu'on est en train de vivre maintenant. On est en train de l'écrire maintenant. Ça va? Comme tes enfants, tu es en train d'écrire dans leur Sefer Torah. Ce qu'ils vont retenir de toi, c'est ce que tu as dit toi dans le Sefer Torah. Toi, tu es dans leur Sefer Torah à eux. Eux, ils sont dans ton Sefer Torah à toi. Comprenez ou non? Tes voisins, ils sont dans ton Sefer Torah. Toi, tu es dans le leur. Ta communauté, tes rabbanim, tes élèves, tes amis, tes ennemis. Tout ça, c'est des centaines de Sefer Torah. Si tu relis tous les Sefer Torah ensemble, c'est quoi? C'est tout le développement de toute la Torah qui a été enseignée. Maintenant, nous, on croit encore une fois que la Torah, c'est seulement l'étude, si tu ouvres la Gemara, tu ouvres la Mishnah. Mais non. Tout ce qui a un rapport de près et de loin avec un lien avec la Torah s'appelle la Torah. Par exemple, dans la Torah, on dit qu'il n'y a que des noms divins. Maintenant, les noms divins, c'est quoi? Yud-Kevavke, le tétragramme, Elohim, d'accord? Après, on dit, après, il y a Eke Asher Eke, c'est encore un nom d'Hachem. Après, il y a des Kinoim, ça veut dire des Rahum Vehanun, des noms, des Kinoim. Maintenant, c'est quoi les Kinoim? Des
attributs.
Oui, comme des attributs divins, d'accord? Que Dieu il est miséricordieux, que Dieu il a pitié, que Dieu il est, on peut compter sur lui, qu'il est Barsamra, tout ça, c'est des attributs. Maintenant, c'est exactement pareil maintenant. Maintenant, si on dit que nous, en vérité, là je suis en train d'étudier la Gemara, d'accord? Après, je sors dans la rue et je parle avec quelqu'un et je cherche la vérité. Après, je rentre à la maison et je vois un conflit entre mes deux enfants et j'essaie de voir exactement qu'est-ce qui est bien. Après, je parle avec ma femme et j'essaie de faire passer le vrai message et non pas ce que je ressens au niveau de ma susceptibilité. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? La vérité de la Gemara, elle est arrivée dans mon couple, ouais, et la vérité de mon couple, elle va rentrer dans ma Gemara. Parce que quelqu'un qui est faux dans la vie, il va être faux dans la Gemara. Donc s'il a honte d'avoir tort dans la Gemara, il va dire un baratin. Donc si avec sa femme il arrive en retard, il va inventer un baratin. Même le rêve. La Gemara a dit, quelqu'un qui cherche le Emet pendant toute la journée, la nuit, il fait des rêves qui sont vrais. Tu dis, mais attendez. La nuit, ça n'a rien à voir. La nuit, c'est le rêve, c'est quoi? Regardez Freud, il va vous expliquer. C'est le refouloir. Le refouloir. Ce que tu as refoulé dans la journée, tu en rêves la nuit. D'accord? Et ça, c'est pour les gens... Et les gens un petit peu évolués. Ouais? C'est-à-dire quoi? C'est qu'ils ont bien compris que, en vérité, le monde est divisé en deux. C'est comme l'imagination et la réalité. Ouais? La décision et la réalisation. Ben alors, la décision, à ce moment-là, c'est un rêve par rapport à la réalité. Ben alors, celui qui n'arrive pas à se décider, alors chez lui, la réflexion s'appelle défouloir. Celui qui arrive à se réaliser, chez lui, la décision, elle s'appelle une réalité. Donc celui qui cherche la vérité toute la journée, la nuit, il n'a rien à refouler. Mais celui que toute la journée, il se fuit, il s'échappe, il se ment, la nuit, il va refouler. Parce que qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi un cauchemar? Ce que je n'arrive pas à assumer dans la réalité, ça me poursuit dans mon sommeil. Mais la nuit, si quelqu'un ne cherche pas à échapper, il ne va pas faire des cauchemars. Puisqu'il ne fuit rien. T'as compris? Je ne fuis rien. C'est ma femme, c'est mes enfants, c'est ma religion, c'est ma personnalité. Je m'assume, je construis, j'évolue avec. Et si tu dis, non mais je fais semblant parce que tout le monde doit dire que je dois être heureux puisque j'ai l'air d'être heureux. Alors la nuit, il fait des cauchemars qu'il est malheureux. Pourquoi? Parce que la nuit, il se lâche quand même. Et il ne peut pas tenir le jour, tenir la nuit. Alors il se lâche la nuit. Mais c'est lui qui ne se lâche pas parce qu'il est bien. Mais il n'a pas besoin de faire des cauchemars. L'enfant qui stresse dans la journée, la nuit, il fait des cauchemars. C'est normal puisqu'il stresse. Pourquoi il stresse? Parce qu'il ne peut pas assumer la pression que lui crée l'adulte. Mais quand tu fais un cauchemar à 38 ans, tu n'arrives pas à assumer la pression que te crée ton patron. Et ouais, quel âge tu vas assumer alors? Comprenez cette logique là ou non? Donc maintenant je te dis, il y a le émet de la journée, le émet de la nuit. Ouais? Donc il y a le émet à la synagogue, le émet à la maison. Il n'y a pas de différence. Ouais? Alors après, il y a toutes les formes de émet que tu as créées avec tous les gens qui t'entourent. Donc tu crées des liens. Émet. Maintenant, tous ces filaments là, ou ces rayons laser, comme je les ai figurés tout à l'heure, en fin de compte, ça crée le lien. Ouais? Pour ça qu'on dit Kol Israël Arevim Zelazé, que tous les bénis Israël sont responsables les uns des autres, tous les bénis Israël sont liés les uns aux autres. Ça veut dire qu'en vérité, quand on dit que la Torah, elle existe, et que la Torah c'est une réalité, et que c'est pas de la culture, c'est pas de la transmission, c'est pas de la communication, c'est quoi? C'est que toute la Torah qui est étudiée dans la génération s'appelle la Torah. C'est pour ça que si vous étudiez un petit peu dans les livres, des fois vous dites, attendez, vraiment, je ne sais pas si je suis juif. Bah oui, parce que tu prends par exemple la Torah de Rabbi Akiba Iger, ouais, que tu mets 6 heures pour comprendre une question. Tu dis, alors je dois être un goy. Après, maintenant tu maîtrises bien Rabbi Akiba Iger. Alors tu dis, tiens, je vais faire un peu de Hassidout. Mais tu comprends rien. Donc c'est une autre Torah. Après tu dis, bon d'accord, maintenant je vais faire de la Kabbalah. Tu comprends rien, alors c'est une autre Torah. Après tu dis, bon c'est pas grave, maintenant je vais faire que du Midrash. Tu comprends rien, c'est une autre Torah. Tu dis, ouais, il y a combien de Torah? C'est compliqué. Franchement, avec la Hassidout, on aurait pu faire une religion. Ouais. Et avec la Gemara, on aurait pu faire une religion. Pourquoi le bon Dieu, il a fait du pluriel? Pourquoi il n'a pas fait du singulier? Un truc facile. Genre les évangiles. Tout le monde pareil. Là, plus tu prends, plus tu rentres, plus tu rentres, plus tu rentres. Moi j'ai des livres chez moi à la maison, des fois je dis je vais les garder pour la retraite, c'est pas possible. Après 25 ans d'études, je les ouvre, on dirait un goy, je comprends rien. Je comprends rien, j'aime pas ce qu'il veut, faut que je me casse la tête, je prends deux temps, je rentre dans sa logique, je rentre dans son truc, ah, j'ai compris, ah ouais, allez ça, ah, par rapport à ça. Mais c'est compliqué, il a écrit 23 livres, 500 pages chacun, c'est sa Torah à lui. Ça c'est la Torah du Maharal de Prague. C'est comme si tu visitais un appartement, tu rentres chez quelqu'un, tu dis bonjour, l'appartement est à vendre, oui. Vous voulez visiter? Oui, bien sûr, on y va. Alors, eh ben écoutez, c'est une salle à manger avec 5 chambres. Ah bon, d'accord. On continue la visite? Pourquoi pas? Ah, dis bon, donc nous avons la chambre des parents. Il ouvre une porte. L'Amazonie. C'est comme si t'es devant toi, t'es au-dessus d'une. Tu sais, quand t'es sur orbite, on te montre toute l'Amazonie. Tu sais, Google, ouais. Oh, tu me suis dans la main. Il y a quoi là? Ben, c'est la chambre des parents. Mais, ben, 20 millions de kilomètres carrés. Hein? Ah bon? Et là, on ouvre la porte. Attention. Alors là, tu fais attention. Tu ouvres l'Australie. Oh. Vous voulez voir la chambre de bonne? La Chine. Oh. Excusez-moi, combien de mètres carrés il fait l'appartement? C'est pareil. La Torah, tu vois, Chumash, sympathique. Tu l'ouvres, tu rentres dans le Ramban, t'es sur une autre planète. Tu ouvres le Zohar, t'es sur une autre planète. Tu dis, mais comment c'est possible? Je te dis pourquoi. Parce que c'est pas des commentateurs, c'est des tuyaux. Mais dans ce tuyau-là, il était le lien, c'est-à-dire que le Ramban, il était le lien entre les hommes et Dieu dans la Torah du Ramban. Donc il a ouvert un infini. Ça va? L'autre, il a ouvert le Baal Shem Tov, il a fait comme ça. Maintenant, le Baal Shem Tov et 274 écoles qui sont sorties du Baal Shem Tov. Je ne sais pas si vous me suivez. 274 écoles. Donc maintenant, tu étudies la chassidoute de Gour, et la chassidoute de Chabad, la chassidoute de Breslev, la chassidoute, c'est encore... La chassidoute de Pritchissa, le Beit Yaakov. Moi, je te dis, j'aime bien ce genre de truc. Je me casse la tête. Des fois, les gens ils me disent, Rav, vous avez fait un cours de 2h30. Et je te dis, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris deux lignes du Beit Yaakov. Maintenant, lui, il a écrit 5 livres. Deux lignes. 3 heures. Tu dis, comment je vais faire toute la Torah? Je te dis, mais qui t'a dit qu'il fallait finir? Tu confonds avec l'annuaire, toi. C'est-à-dire que tu comprends la perception que pourquoi est-ce qu'Hachem il avait besoin que tous les bénis Israël y participent? Parce que s'il avait manqué un seul juif, il aurait manqué un tuyau. Donc la Torah n'aurait pas été complète. Maintenant, comment il va être le lien qui va faire que la Torah d'en haut, c'est-à-dire la perception de l'homme en bas par rapport à sa Neshama, elle va lui venir d'en haut de ce qu'Hachem va lui transmettre? Ça c'est quoi? C'est le Malach, l'ange. L'ange il fait le lien. Pourquoi? Parce que c'est un malhar. C'est quoi un malhar? Un malhar, c'est un koar. C'est-à-dire qu'Hachem, il exprime sa volonté. Cette volonté, elle crée un ange. Après cet ange-là, il véhicule une certaine volonté. Maintenant, si on dit que chaque juif, il a un ange, et qu'un ange, c'est quoi? C'est un morceau de Dieu, d'accord? C'est une volonté de Dieu. Donc maintenant, un homme, en vérité, quand il fait la volonté de Dieu, il devient la continuité de l'ange. Maintenant, tu prends des deux côtés. D'un côté, tu prends le juif qui est en train de dire la Torah. D'un autre côté, tu prends le Dieu qui donne la Torah. Donc maintenant, quelle différence entre le juif qui a une lecture de la Torah, on dit « Kol Israël yesh lo chelek batorah », chacun il a une part dans la Torah, d'accord? Ça veut dire que peut-être toi tu dois écrire un commentaire sur Tehilim. Je me rappelle, à Zurich, il y avait un balabaït, un monsieur qui travaillait. Il avait un business de lampes électriques, des fluorescents, c'était son business, d'accord? Il a écrit un commentaire sur, si je me rappelle bien, sur le... Bon, sur un commentaire du Shranaour. Ouais, un commentaire très important. Il écrit tout un commentaire. Maintenant, ce commentaire, il est étudié dans les Shivot. Comment le type, il est balabaït. Il est businessman, ouais. Mais il a pris ce genou de ce commentaire ouais, comme du Char, par exemple. Il a pris, le Prix Megalim, voilà. Il avait écrit tout un commentaire sur le Prix Megalim dans tout le Shranaour. Ça veut dire, sa Neshama, elle est venue pour ça, sur cette terre. Ça va? L'autre, sa Neshama, elle est venue pour le Tehilim. L'autre, sa Neshama, elle est venue pour les Haggadot du Arizal. Comment tu vas savoir pourquoi elle est venue, ta Neshama? Attention, maintenant, c'est un problème. Ça veut dire que si toi, maintenant, tu n'étudies pas la Torah que toi, tu dois dévoiler dans le monde, cette Torah, elle manque. Mais elle te manque qui? Tu manques qu'elle manque à toi par rapport à ton Tikkun. Non, elle manque à tout Israël, puisque ta Torah, toi, t'en l'as pas eu. Pourquoi chaque juif, il doit étudier toute la Torah entière? Et d'un autre côté, on dit qu'il y a une tendance de la Neshama qui va faire qu'il va avoir une certaine approche plutôt qu'une autre. Donc, parce qu'en vérité, c'est ta Torah à toi. C'est pour ça que le Ramban, il dit « Arour, Michel Oyakim et ta Torah azot, maudit soit celui qui n'a pas renforcé et conforté cette Torah. Ouais, » il dit le Ramban, c'est quoi? Il dit « Arour, Michel Bitel, Torah Tareshaim. » Je ne sais pas si vous me suivez. C'est des juifs, ignorants, ouais, loin de la Torah et contre la Torah. Ils doivent faire teshuva, devenir érudits, Talmid Chacham, écrire un commentaire de la Torah pour que toi tu reçoives leur Torah à eux. ça que des fois, vous voyez des choses incroyables. Vous voyez une famille, zéro de chez zéro. Ouais. Une fois, il est venu chez moi, papa, il m'a dit, monsieur le rabbin, mon fils est en plein délire mystique. Avant, qu'est-ce qui se passe? Il a fait un cri. Écoutez, nous sommes très, très, très traditionnalistes. Enfin, un peu moins que traditionnaliste, ça veut dire zéro. Et notre fils est devenu fou, est devenu religieux, il étudie toute la journée, et maintenant il a commencé à écrire des commentaires. Il a 21 ans, il a déjà écrit un livre. Amenez-moi le fils, je parle avec le fils, une tête. Excusez-moi, est-ce que dans la famille, dans les parents, les grands-parents, vous n'aviez pas des... Ah bien sûr, on avait des rabbins, mais on a très vite compris, avec notre esprit éclairé, que c'était des bêtises. Et c'est comme ça, papa. Malheureusement, la pourriture, tu as beau l'enterrer loin, elle remonte. Mais les diamants aussi reviennent à la surface. Des fois, ça saute une génération et ça revient. Ça veut dire que cet enfant-là, il doit dévoiler une Torah que peut-être ton grand-père n'a pas dévoilée. C'est sa part à lui dans la Torah. Donc si on prend toute la Torah qui est dévoilée dans le monde entier, dans une génération, vous voyez, ça s'appelle la Torah Shlema. C'est ce qu'il appelle le Maharal Torah Shlema. C'est pour ça que nous-mêmes, en vérité, dans l'absolu, on n'a pas tellement de rapport avec la Torah de Rabbi Akiva. Est-ce que vous croyez que Rabbi Shimon Bar Yochai, il étudie la même Torah que nous? Oui ou non? Regardez maintenant, aujourd'hui, là, vous assistez à mon cours. Vous partez à Ponyovitch, à la Yeshiva, vous asseyez, vous comprenez rien. Vous dites, mais attendez, je suis juif ou... Important, parce que moi j'ai une Torah pour vous. Mais sa Torah à lui, elle n'est pas adaptée à vous. Alors tu dis, mais alors c'est laquelle la vraie? Moi tu me dis, c'est adapté. Et ça, c'est dans une seule génération. Mais quand tu passes d'une génération à l'autre, c'est encore pire. Les générations, chaque juif, il connaissait toute la Torah entière. De quoi il parlait, à ton avis? La Gemara, elle raconte, il y a trois rabbanim, ils sont partis trois jours, se reposer. Quand ils sont revenus, ils ne savaient pas lire. Ils ne savaient pas lire, hein. Ils ne savaient plus lire. Les commentaires disent non, c'est pas qu'ils savaient pas lire, c'est que eux, ils savaient déduire des enseignements sur la place de chaque lettre dans la Torah, sur l'enseignement de la forme de la lettre. Ça, ils avaient perdu ça. C'est-à-dire que c'est un niveau dans la lecture de la Torah en trois jours de vacances. Alors imagine que nous, qu'on est 360 jours par an en vacances. C'est normal, parce que les niveaux de perception, ils dépendent de niveaux de concentration. Donc encore une fois, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comme si on prend des tranches. Ouais. Tu prends la Torah de cette génération, et la Torah de cette génération, et la Torah de cette génération, et la Torah de chaque... C'est pour ça qu'il y a des commentaires, ils disent comment on peut prendre une halakha, par exemple, d'une génération sur une autre génération, alors qu'en vérité, le niveau de cette génération n'avait aucun rapport avec la nôtre. Mais si vous allez dire, mais ça ne change rien, parce que c'est quand même du Emmet. Alors, Rav Olbe, il a dit, Emet she'eno mat'im zekimat sheker. Une vérité qui n'est pas adaptée, c'est presque un mensonge. C'est-à-dire que la Torah du Harizal, pour nous, c'est même pas un rêve. Qu'on parle. On parle pas de la même langue. On parle même pas de la même langue. Même les psukim, il les lisait pas comme nous. Ça n'a rien à voir. Lui, il lisait un pasouk, il avait 1 million de commentaires. Et toi, hein, Bekoshi, si tu vois la traduction. C'est pas grave, c'est pas mal. Encore une fois, je suis pas en train de dire on est des nuls, on est des pauvres types. Non, 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 non. Ça veut dire c'est ça la Torah de génération. Pour ça, Rav Olbe, il dit, si quelqu'un dit, moi, je ne veux pas étudier la Torah avec les rabbins d'aujourd'hui. Moi, j'aurais voulu étudier la Torah avec Rabbi Akiba. Alors Rav Olbe, il dit, même les blagues de Rabbi Akiba, tu ne les aurais pas comprises. Les blagues. À plus forte raison, hein. Ouais. Hein, il m'a offert le Tzemar Tzedek. J'ai commencé à étudier, mais attends, il faut 5 ans par livre. 5 ans par livre. Il y a une série comme ça. C'est-à-dire que c'est une Torah dans la Torah. Mais ça ne dérange pas, Baruch HaShem. C'est-à-dire que quelqu'un, il avait une neshama énorme, alors il a donné un éclairage. L'autre, il a une neshama énorme, et normalement, on dit « Kol Israël yesh lo chelek batorah ». Kol Israël yesh lo chelek. Comprenez ou non? C'est-à-dire chacun, il a une part. Donc, si on va faire, on va dire, un espèce de puzzle, toi tu amènes ta part, toi tu amènes ta part, toi tu amènes ta part. Alors les femmes, elles encouragent leur mari, donc elles vont avoir la part du mari. Les femmes, elles encouragent leurs enfants, donc on aura la part des enfants. Vous me suivez ou non? Après les enfants eux-mêmes, ils vont amener leur Torah. Après le Rav, il va amener la Torah grâce aux élèves. Après les élèves, ils vont amener la Torah grâce au Rav. Après la communauté, elle va amener la Torah. Après la Torah que tu développes avec les dons que tu fais dans la yeshiva. Après avec les pauvres que tu entretiens. Après avec les prières que tu fais dans les synagogues. Donc tout ça, ça crée une masse de Torah. On prend une photo de cette masse, ouais, et on crée la Torah de la génération. Et sur cette Torah-là, on va te demander des comptes. C'est pour ça qu'on dit que quand le Rav Elchanan Wasserman, quand le Rav Etzraim, il est niftar, Rav Elchanan Wasserman, il a dit, faites attention, parce que les tzadikim de la génération, ils sont dans le Bet Din, d'en haut. Donc comme Rav Etzraim faisait beaucoup attention au Halachot, alors attention, parce que celui qui va mourir dans cette génération du Rav Etzraim, dans le Bet Din, il y aura le Rav Etzraim. Vous avez compris ou non? Donc il va t'interroger pour les halachot. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire que chaque tzaddik de la génération, d'un côté tu dis, bah, oh Hachem, qu'on a eu la chance d'avoir des grands comme ça. D'un autre côté, attention, parce que ça va être aussi une exigence. Comment ça se fait que tu n'as pas appris de lui, parce que tu as eu la chance de le rencontrer? C'est comme si tu es un grand professeur et tu dis, oh vous savez, je suis dans cette école. Mais tu as réussi ton bac? Non, je ne l'ai pas eu. Tu es nul. Ah, j'allais pas en classe parce que j'allais jouer au foot. Quand tu étais dans une école comme ça, tu allais jouer au foot. Donc d'un côté, c'est une chance qu'on te donne, d'un côté, c'est une exigence. Et partout, tu as appris ta femme ou non? Bah écoute, elle a 10 minutes. Ouais, mais tu as appris de ton mari? Ouais, tu as appris de tes parents? Donc tous les gens qu'on a mis en face de toi, en fin de compte, c'est pour créer des liens transparents, on a dit. L'ensemble des liens transparents s'appelle la Torah de la génération. Maintenant, la Torah de la génération, c'est quoi? C'est ça l'unité. Maintenant, pourquoi ça sert l'unité, à part l'amour, à part la gentillesse? Eh bien, évidemment, parce qu'on ne peut pas apprendre de quelqu'un si on ne l'aime pas. Et on ne peut pas apprendre de quelqu'un si on ne le respecte pas. Et on ne peut pas apprendre de quelqu'un si on l'a volé, si on l'a triché, si on l'a menti. Donc, toutes les lois qui gèrent l'unité, entre guillemets, l'unité sociale, en vérité, elles vont être la trame de l'unité spirituelle. Mais il faut qu'il y ait un projet d'unité spirituelle. Sinon, ça devient un club de scouts. Et c'est vraiment dommage. Donc Hachem, il fasse qu'on crée cette unité, surtout avant Matan Torah, qu'il y ait beaucoup d'amour entre les Bnei Israël, parce que la part de Torah qu'on recevra à Shavuot, elle dépend du degré d'amour qu'on a eu pour les autres pendant toute l'année. Ça va? Alors on va dédier le cours, les Elou Nishmat, de plusieurs personnes, à mon père Avram Shimon Ben Simcha, de Eliyahu Ben Aïcha, de Yitzhak Ben Aïcha, et aussi pour le papa Yaakov Ben Mordechai. Hachem, il élève sa neshama. Yaakov Ben Shulamit. Bruria Bat Miriam. Lili. Tafé Bat Mazal. Amen. Chaim Ben Sarah. Chaim Ben Sarah. Chana Bat Osher Enden. Chauve. Chaud, chaud. Qu'Hachem, il élève leur neshama.